Bon, ben bonsoir. Si vous voulez bien, nous allons commencer. Alors, ben, on est un peu désolé d'avoir aussi peu de monde. Merci à ceux qui sont venus, puis tant pis pour ceux qui ne sont pas venus, parce qu'ils vont forcément rater une soirée très intéressante. C'est pas faute d'avoir été prévenu. Ce soir, alors certes, c'est un sujet qui peut paraître austère au commun des usagers du système de santé, bien qu'à mon avis, ils sont extrêmement concernés, et les professionnels le sont aussi tout particulièrement. Alors le thème qu'on va développer, c'est contraintes économiques, santé et qualité des soins. C'est un sujet extrêmement d'actualité, et pour illustrer son actualité, je vais vous faire part d'une lecture que j'ai faite là, tout récemment, c'est le supplément du Monde qui s'appelle Le Monde de l'économie en date du 29 mars 2011 qui a consacré un dossier au thème les services publics entre réforme et déclin. C'est un dossier qui se sert notamment d'un sondage réalisé par un syndicat que je ne citerai pas qui a fait une étude auprès des responsables de cadres des trois fonctions publiques sur ce qu'ils perçoivent des résultats de réformes en cours ou du contexte de réformisme forcené qui existe actuellement. 72% des cadres de la fonction publique hospitalière ont le sentiment de remplir leur mission. Alors certes, 72, c'est mieux que rien, mais enfin, c'est pas non plus un chiffre très élevé. 60% disent que leur charge de travail entraîne la peur de faire des erreurs, par exemple oubli de tâches importantes, travail bâclé, mauvaise communication, etc. 14% disent avoir été consultés sur les réformes en cours. Là, je dis bien les cadres, hein. Cadres au sens large. 20% disent être accompagnés pour s'adapter à leur nouvelle mission. Et là, les cadres de la fonction publique hospitalière se sentent mieux accompagnés que la moyenne des cadres de la fonction publique, parce que la moyenne, c'est 13%. 2% pensent que les réformes en cours vont améliorer leurs conditions de travail. Et 7% pensent que les réformes dans leur secteur d'activité vont améliorer les services aux usagers. C'est là où on approche la question de la qualité. Dans les causes qu'ils donnent à leur inquiétude, c'est principalement la révision générale des politiques publiques qui est mise en cause, hein, qui est donc rendue responsable du sentiment négatif de ces cadres du service public. Et on retrouve le même niveau de réponse dans d'autres enquêtes ou des séminaires mis en place par les élus locaux, notamment dans une audition à l'Assemblée des petites villes de France au Sénat le 2 mars 2011, ou des colloques mis en place par des usagers. Dans le même numéro du Monde, il y a une interview d'un directeur de recherche au CNRS, qui s'occupe donc des questions d'organisation, et qui explique que ce sentiment d'échec, finalement, des réformes actuelles, tel qu'il est ressenti par les cadres, s'explique sans doute par une espèce de mythologie du secteur privé qui s'est construite sans que ses promoteurs ne sachent tirer les conséquences de graves échecs qui pourtant ont été subis dans ce domaine. Et il cite comme exemple ce qui a été mis en évidence par la crise financière de la fin des années de 2008, où le secteur privé a montré, au moins dans le domaine financier, qu'il était incapable de faire fonctionner les instruments de contrôle qu'il avait mis en place. Par ailleurs, le même chercheur au CNRS nous dit que la question du contrôle, de l'évaluation, est envahie par le développement d'indicateurs chiffrés, alors que tous ceux qui ont un petit peu étudié ces questions disent que les indicateurs chiffrés ne mesurent que ceux qu'on veut mesurer, et qu'à tout réduire à des grilles quantitatives, on tombe forcément dans un formalisme bureaucratique, que les statistiques mortes ne disent rien de ce qui se joue dans la réalité des services sur le terrain. Et il cite comme exemple les indicateurs chiffrés, par exemple, qui ont cours dans les services de police, où, par exemple, les policiers refusent d'enregistrer les plaintes de certains plaignants pour ne pas altérer les bons résultats du mois en cours, pour donc améliorer leur performance. Donc ça, c'est une première approche de la problématique, me semble-t-il. Je compléterai cette approche par une série de questions plus spécifiques à la santé. La qualité des soins, est-ce que c'est une aspiration ancienne des organisations professionnelles ? On sait par exemple qu'en France, la création de l'ANDEM, l'ANDEM c'était l'Agence nationale pour le développement d'évaluation médicale, avait été précédée de nombreux colloques et rapports de professionnels relatifs à l'évaluation des pratiques professionnelles. Et que cette approche, l'évaluation des pratiques professionnelles, existe depuis longtemps dans le monde anglo-saxon à l'initiative des professionnels pour valoriser les spécificités de leur exercice. Est-ce que c'est une aspiration des usagers ? L'implication des usagers se montre très concrètement dans les rouages de l'actuelle haute autorité de santé. Il se trouve que j'ai l'occasion de participer à un certain nombre d'instances de cette haute autorité de santé et que les usagers, en tout cas leurs représentants, participent aux instances, y compris les plus élevées, par exemple à l'élaboration du manuel de certification des établissements, à l'élaboration de certaines recommandations de bonnes pratiques. Demain, par exemple, c'est pas demain, c'est après-demain, je vais participer à un groupe de travail sur l'adaptation du manuel de certification à la prise en charge des enfants et des adolescents dans le monde de la santé. Et les associations d'usagers sont extrêmement, non seulement présentes, mais extrêmement actives dans ce groupe de travail où elles amènent des idées qui sont très stimulantes pour les professionnels du même groupe de travail. Donc là, on est bien dans le domaine d'une exigence de qualité qui s'exprime dans le monde des usagers. Et du reste, les usagers sont également présents dans certaines instances de sociétés savantes où elles aident à l'élaboration de certains types de recommandations. Troisième question, est-ce que la qualité des soins, c'est un cache-misère ? Moi, je pense que c'est un risque si on n'y prend pas garde et si on se laisse envahir par certaines dérives, comme l'exubérance des indicateurs. On sait que dans le domaine de la santé, les indicateurs, là aussi, tendent à remplacer les méthodes d'amélioration des pratiques professionnelles. Est-ce que c'est une bureaucratisation de la médecine ? À mon avis, c'est aussi un risque qui serait à ce moment-là grave et très contre-productif. Et malheureusement, moi j'en ai l'illustration avec ce que la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire a mis en place, enfin veut mettre en place pour remplacer l'évaluation des pratiques professionnelles et qui s'appelle le développement professionnel continu et qui est une usine à gaz absolument monstrueuse où là on a une caricature d'administration qui est sa propre fin et où le... Il est bien évident que ça va avoir un effet extrêmement d'opposition chez les professionnels. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Ceci dit, la semaine prochaine, je prendrai le risque d'en expliquer les enjeux dans ma commission médicale d'établissement. Pour ces deux derniers risques, le concept de déficience, qui est souvent accolé, doit être bien réfléchi. En effet, puisque c'est ce que les décideurs nous proposent. Propose de faire une synthèse entre l'exigence de rationalité économique et l'exigence de qualité. Cette synthèse, ça s'appelle l'efficience. S'il s'agit de faire au mieux pour le moins cher, c'est ça la définition d'efficience, il y a des enjeux majeurs. Car qui va définir les objectifs de qualité dans ce mécanisme ? Il me semble évident que le système ne peut être crédible que si ce ne sont pas les financeurs qui définissent les objectifs de qualité. Et je pense que ça va être un petit peu l'objet de la confrontation des deux présentations. C'est qu'il est essentiel de maintenir une relation dialectique entre les exigences de la qualité et la contrainte économique. Et donc voilà un petit peu les arguments de notre soirée. Et pour amener des éléments constitutifs de cette réflexion. Nous avons deux intervenants. Gilles Kerr, qui est maître de conférence en sciences économiques à la faculté de droit de Poitiers. qui va nous parler donc du contexte économique de toutes les politiques publiques. Et puis Maria Soledad Noboa, qui est médecin de santé publique au CHU et qui anime une structure interhospitalière dans la région Poitou-Charentes qui a pour objectif de mettre en place, enfin d'aider les professionnels à s'approprier les méthodes et les outils de la qualité dans leur pratique quotidienne. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Je crois que peut-être qu'il faut commencer par le contexte économique, et puis après, enfin, je ne sais pas comme vous voulez. Hein, là, je vais commencer.
Oui, bon, allez. Alors, je vais essayer de... Donc, ce que je vais vous présenter, hein, c'est en tant qu'économiste, évidemment, et surtout de macroéconomiste. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la microéconomie de la santé, de la mesure de la qualité des soins, notamment. Ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu une perspective générale. Hein.
Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler dans le micro parce que la séance est enregistrée?
Ça marche. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est trois points. Je vais essayer de les faire assez rapidement. Le lien entre protection sociale et croissance, puisqu'on m'avait demandé justement de traiter plus largement que la santé. Alors, j'ai pas élargi à l'ensemble des dépenses publiques. Hein. Mais quel lien on peut dégager entre protection sociale et croissance. Ensuite, la problématique des dépenses de santé, plus spécifiquement, et de leur financement. Et puis enfin, la question de l'accessibilité financière aux soins. Alors, première chose, quand on regarde dans la très longue durée, les statistiques en France, hein, on peut remonter donc au tout début des années 60. On ne peut pas remonter de manière rigoureuse, hein, malheureusement, à la naissance de la sécurité sociale en 45. Alors, en gros, on peut distinguer donc six périodes. Donc là, c'est l'ensemble de la protection sociale rapportée au PIB. Hein, donc, on débute dans la fameuse période des 30 glorieuses, hein, du succès keynésien, où il y a une interaction positive entre croissance économique et progrès social. Je présenterai les choses ainsi. Donc, une croissance relativement régulière, hein, de la protection sociale en pourcentage de la richesse créée. Qui était prévu, hein, par Keynes et par Beveridge, notamment en Angleterre, hein, cette spirale positive, hein, entre croissance et protection sociale et donc amélioration, hein, du sort de la population. Ensuite, on rentre dans une deuxième phase, hein, les années 70, à partir de la première crise pétrolière, où on a une espèce de fuite en avant, c'est-à-dire que la croissance des dépenses va être beaucoup plus forte que dans la première période, alors que justement on rentre dans une période de ralentissement de la croissance. Et c'est une période où on essaye de s'en sortir toujours, je dirais, avec des solutions keynésiennes, même si c'est la droite qui est au pouvoir jusqu'en 81. Chirac, hein, Premier ministre, était encore keynésien en 74, 75, 76. Donc on continue, hein, sur une progression, voire même on accélère la progression. Et puis on arrive en 83 avec le tournant de la rigueur, donc une période, hein, 84-89, où peu à peu cette proportion consacrée à la protection sociale s'affaiblit très très légèrement. Ensuite, un retour, hein, avec la deuxième gauche, avec d'abord le gouvernement Rocard, hein, la mise en place du revenu minimum, où on repart un petit peu à la hausse. Et puis enfin, une très longue période, hein, 93-2008, de quasi-stabilité, hein, de la part consacrée à la protection sociale dans le PIB, que j'ai intitulé de Maastricht à Lisbonne. Hein, on est dans des contraintes économiques, je dirais, européennes. Et puis, la fin de la période, les deux années. Alors, on n'a pas encore les données 2010, hein, malheureusement, en matière de protection sociale. 2008-2009, où donc, de nouveau, le taux repart très nettement à la hausse. Et ce qu'on peut appeler le sauvetage, hein, il s'agit de sauver un petit peu ce qu'on peut sauver, et notamment à travers la protection sociale. Donc, on aboutit actuellement à 32% quasiment du PIB consacré à la protection sociale, 600 milliards d'euros. Alors, si on regarde sur la période plus récente, hein, sur les 10 dernières années, et si on compare justement la croissance du PIB avec la croissance des dépenses de protection sociale en faisant abstraction de l'inflation. Donc, vous avez la croissance du PIB en bleu, vous avez la croissance des dépenses de protection sociale en jaune clair. On constate qu'il n'y a que 3 années où le PIB a cru plus vite que la protection sociale, hein, 2000, 2006 et 2007. Les autres années, la protection sociale s'est développée beaucoup plus rapidement que le PIB. Et donc on voit apparaître ici un effet d'amortisseur, hein, qui est bien connu chez les économistes de la protection sociale. Quand la croissance économique est forte, eh bien, la protection sociale a un rôle un petit peu moindre à jouer. Quand la croissance se ralentit, voire même quand elle s'inverse, eh bien, la protection sociale devient extrêmement importante pour essayer de compenser les difficultés dues au chômage, aux difficultés de revenus, de logement, etc. Alors, c'est ce que vous avez sur le petit schéma du bas. Le schéma du bas, c'est la même chose que les chiffres qu'il y a au-dessus. Simplement, vous avez en abscisse le taux de croissance du PIB, vous avez en ordonnée le taux de croissance de la protection sociale. Et donc, se dégage une relation négative, c'est-à-dire que plus la croissance économique est forte, moins la protection sociale croît, et inversement, et c'est évidemment ce qui s'est passé en 2009, quand on aboutit à une croissance négative, eh bien, la protection sociale, entre guillemets, la croissance de la protection sociale explose. Alors, cette tendance négative, hein, évidemment, elle n'est pas absolument rigoureuse. Vous constatez qu'il y a 2 années qui ne correspondent pas à cette tendance générale. Hein, 2002, mais c'était une année présidentielle. Donc c'est une année un petit peu particulière, 2002. Et puis 2008, hein, c'est le début de la crise. Donc on est sur encore des décisions qui sont d'avant la crise. Et c'est à partir du mois de septembre qu'on commence à s'interroger sur les solutions à mettre en place. Donc je dirais 2008, c'est une année un petit peu de transition. Mais donc très nettement, hein, on voit cet effet de compensation, hein, entre protection sociale et croissance économique, un mouvement inverse. Alors que sur le long terme, on l'a vu tout à l'heure, hein, plus un pays s'enrichit, plus la protection sociale, plus les dépenses de protection sociale prennent une part importante. Par contre, quand on raisonne comme ça, plus sur le court terme, plus d'une année sur l'autre, on voit l'effet inverse, c'est-à-dire que la croissance de la protection sociale est corrélée négativement avec la croissance du PIB. Alors, si maintenant on essaye toujours sur ces données-là de raisonner au niveau européen, donc vous avez ici les 27 pays de l'Union européenne, vous avez en abscisse le PIB par habitant, les pays les plus pauvres sont en bas à gauche, hein, Bulgarie, Roumanie, les pays les plus riches à droite. Alors, j'ai pas pu mettre le Luxembourg sur le schéma parce que ça a posé des gros problèmes, ça a écrasé complètement les autres pays puisque le Luxembourg a quasiment un PIB par habitant, hein, qui est 2 fois plus élevé que le deuxième pays des 27 le plus riche, les Pays-Bas. Donc le Luxembourg est vraiment un cas à part. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, et on parle de modèle européen de protection sociale, alors on peut faire 2 remarques par rapport à cette expression de modèle européen de protection sociale. Première remarque, en vision instantanée, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien à voir entre la Bulgarie et la Roumanie d'un côté et puis les pays d'Europe du Nord de l'autre côté. Hein. Rien à voir en termes de richesse par habitant, rien à voir en termes de dépenses consacrées à la protection sociale. Et donc on peut se dire, modèle européen de protection sociale, ça n'existe pas. Il y a une deuxième vision qui est peut-être un peu plus dynamique des choses, et c'est un petit peu le sens du couloir que j'ai essayé de faire figurer avec les traits en blanc. C'est de se dire que finalement, le modèle européen de protection sociale, c'est cette idée que quand on s'enrichit, eh bien, on va consacrer une part de plus en plus importante à la protection sociale. C'est le modèle européen de protection sociale, au moins jusqu'à, mettons, jusqu'aux 10 dernières années, c'est un petit peu ça, c'est cette tendance de relations positives, hein, sur le long terme entre PIB par habitant et dépenses totales de protection sociale par rapport au PIB. Alors, vous voyez que, évidemment, c'est qu'une relation assez lâche, puisque vous voyez que la France est au-dessus, la France et la Suède sont au-dessus de cette espèce de corridor. Vous constatez également qu'il y a un pays exceptionnel parmi l'Union européenne, c'est l'Irlande. L'Irlande qui est complètement atypique, puisqu'elle est, à l'époque, en 2006, évidemment, le pays le plus riche en termes de PIB par habitant, mais par contre est parmi les pays qui consacrent le moins à la protection sociale. Alors évidemment, ça c'est le fameux miracle irlandais, on a vu ce que ça a donné dans les 2 dernières années, ce miracle irlandais. Donc l'Irlande est quand même un cas très très à part. Si sur le schéma, l'Irlande ici, on est donc avant la crise en 2006, mais ce sera la même chose en 2007, depuis 2008-2009, c'est plus du tout le même cas de figure. Mais c'est aussi l'idée, hein, que l'Irlande a fait du dumping social, que ce dumping social, il s'est traduit en effet par une réussite du point de vue du PIB par habitant, mais par une spéculation immobilière et financière désastreuse, et ils en payent les conséquences aujourd'hui. Donc je dirais l'Irlande est quand même un cas très très spécifique. Et puis j'ai rajouté un pays, donc les États-Unis, donc qui sont pas dans la base de données. Alors les chiffres sont pas directement comparables. Hein. Autant on peut comparer les données protection sociale entre pays européens parce que c'est harmonisé au niveau de au niveau des statistiques européennes, autant comparer ensuite avec des pays sur d'autres continents, c'est un petit peu plus problématique. Mais enfin, au niveau tendance générale, c'est quand même assez clair. Donc les États-Unis, hein, pour le faire simplement, vous êtes proche de l'Irlande. Vous êtes sur un PIB par habitant qui est largement supérieur à l'ensemble des pays européens. Et sur un modèle qui est complètement différent, vous le voyez, un modèle où les dépenses de protection sociale représentent en gros 16% du PIB. Donc je dirais, quand on parle de modèle européen, hein, c'est évident que les pays les plus pauvres n'ont rien à voir avec les pays les plus riches au niveau européen, mais si on regarde cette relation, on peut penser que le modèle européen, c'est ça, c'est cette relation, quand on s'enrichit, on va consacrer plus d'argent à la protection sociale. Alors, si on s'intéresse maintenant plus spécifiquement aux dépenses de santé, même chose, première vision sur le long terme. Alors ici, là encore, j'ai annulé les effets de l'inflation, hein, donc c'est ce qu'on appelle des raisonnements en volume. Alors vous avez en rose, hein, le PIB, donc taux de croissance du PIB, c'est calculé par période de 5 ans, donc taux de croissance moyen. Alors évidemment, on n'est plus du tout sur des taux de croissance qui existaient encore dans les années 60, hein, on avait une croissance réelle qui était de plus de 5% par an. On est aujourd'hui sur des taux de croissance qui, bon an, mal an, tournent, vous le voyez, depuis 1990, qui tourne autour de 1 à 2%. On a eu une bonne période. Sans doute, je l'attribuerai quand même à une question politique sur 95-2000, mais en dehors de ça, on voit bien qu'on est sur des taux de croissance qui, en moyenne, sont inférieurs à 2% par an. Et donc maintenant, quand on regarde la croissance de ce qu'on appelle la consommation de soins et de biens médicaux, hein, qui est un des indicateurs des dépenses de santé, là aussi, on n'est plus du tout sur les taux de croissance qui existaient dans les années 60, voire 70. On est plus sur des taux de croissance de 8-10% par an. On est maintenant sur un rythme qui, en tendance, est un petit peu au-dessus de 3% par an. C'est en termes réels ici. Hein. Attention, c'est pas en valeur. Hein. Et donc, on voit apparaître ici la première difficulté, hein, c'est cet écart. Vous avez une croissance économique, une croissance des richesses qui est en gros au mieux de 2% par an. Quand je dis au mieux, on est même sur une tendance aujourd'hui, hein, qui est plutôt autour de 1% que de 2%, il faut être clair. Et parallèlement, on a des dépenses de santé, hein, qui augmentent, disons, à un rythme, et pourtant des dépenses qui sont contraintes, hein, par toutes les politiques de santé depuis maintenant, on ne pourrait pas se remonter à la fin des années 60, mais bon... qui sont des contraintes très fortes, je dirais, depuis le milieu des années 90, on est quand même à un rythme de croissance qui est de 3% par an. Donc là, déjà, on voit un premier problème. La conséquence, c'est qu'évidemment, le ratio, hein, quand on rapporte ces dépenses de santé au PIB, ben, ce ratio, il augmente constamment, hein, puisque cet écart-là, il joue de manière cumulée. Alors ça, c'est un graphique qui est moins souvent présenté, qui est un graphique de l'OCDE, et qui a calculé la croissance des dépenses de santé. Alors c'est toujours la même chose, hein, c'est en termes réels, donc on annule là encore les effets de l'inflation. Croissance sur 10 ans, donc 97-2007, alors c'est pas exactement la même définition des dépenses de santé que celle que j'ai présentée tout à l'heure, hein, ce qui vous explique que pour la France on est à 2,5 au lieu d'être autour de 3% comme je l'ai mis tout à l'heure, mais ça c'est qu'une question de définition. Mais ce qui est très net, c'est qu'on n'est pas parmi les pays où les dépenses de santé augmentent le plus, très loin de là. Alors évidemment, on peut dire la Corée, la Turquie, bon, l'Irlande, je la mets à part encore une fois, mais Corée, Turquie, Grèce, République slovaque, Pologne, c'est normal qu'il y ait une croissance des dépenses de santé qui soit largement supérieure à la France. Il y a un effet de rattrapage. Mais néanmoins, par rapport à des pays qui sont d'un niveau de richesse relativement comparable, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Finlande, Canada, Suède, Belgique, Pays-Bas, etc., on a une croissance des dépenses de santé qui est beaucoup plus faible. Hein. Donc la régulation, la fameuse régulation ou la fameuse contrainte des dépenses de santé en France, elle est, entre guillemets, sous cet aspect économique, efficace. Hein. Il y a très peu de pays, l'Allemagne, mais là aussi l'Allemagne, hein, je dirais de manière générale, il y a une compression des dépenses sociales en Allemagne très très forte depuis Schröder, hein, depuis justement... Schröder doit arriver en 97, hein, de mémoire, justement. Donc Schröder et puis ensuite Merkel. Hein. Donc là, le modèle social allemand est mis à mal justement sur cette période-là. Mais en dehors de ça, bah, même la Suisse, Norvège, Italie, on est très proche du taux de croissance de la France. Donc quand on dit les dépenses de santé dérapent en France, quand on compare au niveau de l'OCDE, qui est le club des pays riches, hein, la 30-35 pays riches, alors ils ne sont pas tous ici, mais 30-35 pays riches sur la planète, on voit bien que la France n'est pas dans une situation, dans une mauvaise situation en termes de taux de croissance, au contraire. Alors, la structure des dépenses de santé, bon, vous la connaissez tous, simplement ici elle est ramenée par personne. Donc le premier indicateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, la consommation de soins et de biens médicaux, hein, ça représentait en 2009, c'est là encore les dernières statistiques disponibles, 2 724 € par personne, hein, donc avec le gros morceau qui sont les soins hospitaliers. Hein, le pourcentage exprimé par rapport à la dernière somme, hein, c'est-à-dire la dépense courante de santé. Bon, je ne détaille pas ça parce que ça, vous les connaissez. Simplement, une remarque sur les coûts de gestion. Vous voyez, après la CSBM, un coût de gestion 6,9%. C'est-à-dire que ces coûts de gestion, ils intègrent tous les frais de gestion de la sécurité sociale et également toutes les campagnes de communication et les campagnes, l'informatique, les salaires, etc. Alors, coût de gestion de 6,9%, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup ? Quand on compare par rapport à d'autres systèmes de santé publique, on est plutôt au-dessus. C'est-à-dire que, traditionnellement, en termes de système de santé, on distingue les systèmes beveridgiens des systèmes bismarckiens. Les systèmes bismarckiens, qui sont plutôt... la France est plutôt dans ce cadre-là, sont plutôt plus coûteux que les systèmes beveridgiens, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, par exemple, ou le Canada, ou la Nouvelle-Zélande, sont des pays où les coûts de gestion sont très faibles. On va être sur des coûts de gestion qui sont plutôt de l'ordre de 3-4%. Hein. Ici, on est dans une fourchette haute, hein, je crois que de mémoire, parmi les pays riches qui ont des systèmes de santé publique, le plus haut doit se situer à 7-7,5%, donc on est vraiment dans la fourchette haute. Donc, en termes de comparaison des systèmes publics, on est plutôt pas bon. Mais ce n'est pas qu'on n'est pas bon parce qu'il y aurait de la bureaucratie, de la paperasserie. On n'est plutôt pas bon parce qu'on a un système extrêmement éclaté professionnellement. On a une multitude de caisses. Et dès qu'on a un système éclaté, ben forcément, c'est plus coûteux à gérer que quand on a un système unifié. Deuxième élément de comparaison, c'est quand on compare par rapport au coût de gestion d'une mutuelle ou d'une compagnie d'assurance. En France, hein, je prends le cas français, le coût de gestion d'une mutuelle... c'est-à-dire tout ce qui ne revient pas à l'assuré, hein, sous forme de prestations, les frais de gestion, hein, d'une mutuelle ou d'une compagnie d'assurance, c'est 25%, chiffre officiel. C'est pas du tout la même chose, on est dans un rapport de 1 à 4, et c'est quelque chose qu'il faut retenir, hein, puisque tout à l'heure je vais parler des complémentaires santé, mais un système d'assurance privée est toujours beaucoup plus coûteux, hein, en termes de frais de gestion, qu'un système public. Bon, si ça vous intéresse, dans le débat éventuellement, je pourrais vous expliquer quelles en sont les raisons. Mais contrairement à tout le discours ambiant des médias, là, on n'a encore rien inventé de mieux que la sécurité sociale de ce point de vue-là. Alors, ces dépenses-là, donc, disons 2 724 € hein, par personne en termes de si on prend la CSBM. C'est des dépenses qui sont extrêmement concentrées. Alors là, c'est des chiffres qui datent un petit peu, hein, j'en ai pas trouvé de plus récent malheureusement, qui concernent uniquement le régime général. C'est des chiffres de 2002, hein, c'était une étude qui avait été menée par la CNAM en 2002. Et donc 5% des assurés de la CNAM à l'époque, 5% des assurés représentaient 50% des dépenses, la moitié des dépenses, et 60% des remboursements. Et à l'époque, ces 5%, en moyenne, les dépenses de santé représentaient 20 000 € par personne et par an. A l'inverse, 15% des assurés n'avaient quasiment aucune dépense dans l'année, c'est-à-dire consommation marginale, leur consommation dans l'année était inférieure à 40 €, c'est-à-dire à peine une visite chez le médecin et une ou deux boîtes de médicaments. Inversement, 10% dépensaient entre 40 et 150 € et 25% dépensaient entre 150 et 470 €. Alors, derrière cette concentration des dépenses, en fait, vous avez trois facteurs. Vous avez d'abord l'âge, évidemment, hein, c'est vers la fin de la vie que que les dépenses de santé vont très fortement augmenter. Ça, c'est le premier facteur qui explique la concentration. Le deuxième facteur, c'est la catégorie sociale. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à âge, à sexe comparable, eh bien, un ouvrier aura des dépenses qui seront plus importantes qu'un cadre supérieur. Alors, bon, c'est des questions de conditions de travail, de conditions de vie, etc. Il y a des tas de choses derrière, évidemment, mais c'est à prendre en compte. Et puis le troisième facteur, je dirais, c'est un petit peu la loterie de la vie. C'est notamment parmi ces personnes-là, on va trouver, on va en reparler, les ALD, les affections de longue durée. Donc, on a une très forte concentration des dépenses. Donc, quand on prend le chiffre de 2724 euros par personne, ce français moyen, 2724 euros, il n'existe quasiment pas. C'est un petit peu le problème des moyennes en matière de santé. Quand on regarde la courbe des dépenses, il faut raisonner en termes d'écart, en termes de dispersion. La moyenne n'a pas un sens extrêmement intéressant, puisqu'on se rend bien compte que d'un côté, vous allez avoir donc des personnes avec des dépenses de 20 000, 30 000, 40 000 euros par an, et de l'autre côté, des personnes qui n'ont quasiment aucune dépense. Et que donc là, si vous êtes dans un système purement privé, vous calculez la prime d'assurance correspondante. D'un côté, vous allez avoir des personnes, vous rajoutez, système d'assurance privée, vous rajoutez en plus 25% de frais de gestion, vous allez avoir des personnes qui devraient payer 30 000 euros par an, et de l'autre côté, des personnes qui vont payer 50 euros par an d'assurance. Alors là aussi, c'est intéressant de voir les difficultés des mutuelles par rapport à ça. Quand on essaye d'avoir une pratique solidaire, quand on essaye soit de faire payer tout le monde à peu près la même somme ou de faire payer en fonction du revenu, évidemment, on va repousser les jeunes. Les jeunes vont avoir tendance à aller vers le privé. On va leur proposer, évidemment, des primes beaucoup plus intéressantes. Alors, en termes de financement, ça, c'est ce qui est très, très souvent présenté. C'est là encore des statistiques officielles. Donc là, je vous ai mis 2000 et 2009. Donc le financement des dépenses de santé, donc éclaté en dispatché en quatre financeurs, Sécurité sociale, État, ICMUC, complémentaire et ménage. Alors, on va raisonner sur ce qui est public et ce qui est, entre guillemets, privé. Donc en 2000... Sécurité sociale plus État, 78,2% complémentaire, ménage, 21,8% du financement. 2009, on passe à 76,8%, 23,2%. Alors, quand on regarde ça, on se dit, c'est relativement stable. La part de l'assurance maladie obligatoire et de l'État a très légèrement diminué, mais ce n'est pas un bouleversement considérable. Or, les ménages ont l'impression complètement inverse. Si on les interroge, ils ont l'impression que, justement, la sécurité sociale rembourse de moins en moins. En termes de pourcentage des dépenses, c'est relativement faux, c'est relativement stable. Alors, pourquoi cette différence entre ce qu'on constate en termes de pourcentage et ce que ressentent les ménages ? Tout simplement parce qu'il faut raisonner aussi en termes de valeur absolue. Donc c'est exactement le même tableau que tout à l'heure. Simplement, le pourcentage est rapporté à la dépense. En 2000, la consommation donc, de soins et de biens médicaux était de 2138 euros. Alors, c'est exprimé en euros 2009. Là encore, j'annule les effets de l'inflation. Aujourd'hui, cette dépense, elle est de 2724 euros. Et donc, 23% de 2724 euros, c'est beaucoup plus que 21% de 2138 euros. C'est-à-dire que ce qui reste à la charge des complémentaires et des ménages, c'est maintenant 632 euros, alors que c'était 466 euros en 2000. Et là encore, j'ai annulé les effets de l'inflation. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les dépenses de santé à la charge des complémentaires et des ménages ont augmenté sur la période de 36%. Et parallèlement, le revenu des ménages, ce qu'on appelle le revenu disponible brut, il a augmenté que de 18%. Donc, ce qui reste à la charge des complémentaires et des ménages a augmenté deux fois plus vite que le revenu moyen des ménages. Et ça, c'est le revenu moyen. On va voir que les inégalités, en plus, se sont creusées. Donc, ça va être encore plus dur, évidemment, pour les pauvres. Donc, vous voyez les deux raisonnements. On manie souvent uniquement le premier tableau pour dire, finalement, les choses, on est dans un monde qui est relativement stable. Quand on raisonne en termes de valeur absolue, on s'aperçoit que l'impression des ménages est vérifiée. En effet, la santé leur coûte de plus en plus cher. Alors, en termes de comparaison, alors là, c'est toujours au CDE. En termes de comparaison, donc là, c'est la prise en charge assurance sociale et administration publique, hein, c'est les deux premières catégories de tout à l'heure. Donc la France, 79% prise en charge. Alors là encore, hein, les termes du calcul sont un petit peu différents quand on est au niveau OCDE, quand on est au niveau Union européenne. On est dans une charge, dans une prise en charge publique, hein, qui est dans une honnête moyenne, hein, par rapport aux pays riches. Hein. En gros, dans l'OCDE, vous voyez que pour tous les pays, la prise en charge publique représente plus de la moitié des dépenses, avec deux exceptions, le Mexique, mais c'est un petit peu normal, hein, c'est quand même un pays qui est moins riche que les autres pays en termes de PIB par habitant, et puis la grosse exception, c'est les États-Unis, avec un système d'assurance maladie et un système de santé qui sont un modèle complètement différent de l'ensemble des autres pays riches. Donc là, on voit bien les différences. Alors, troisième et dernier aspect, l'accessibilité financière aux soins. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'évolution du revenu des ménages. Alors là, c'est sur la période 2002-2007. Hein, on n'a pas de données en termes d'inégalité plus récentes que 2007, malheureusement, au niveau de l'INSEE. Alors, ce qu'il faut regarder d'abord, c'est l'avant-dernière ligne. Là, c'est en termes cumulés. Entre 2002 et 2007, donc sur ces six années, le revenu des ménages... Alors là, c'est le niveau de vie, c'est le niveau de vie, hein, donc c'est le revenu des ménages et on prend en compte la dimension et la structure de la famille. Hein. Bon, je ne détaille pas ça, mais en gros, le niveau de vie, il a augmenté de 11%. Quand on cumule ces six années. Mais maintenant, quand on regarde, quand on divise la population donc en 10 parties, les plus pauvres, ils ont gagné 30 euros de revenus en 6 ans, 0,4% de revenus en plus. Les plus riches, les 10% les plus riches, ils ont gagné 8000 euros de revenus, 18% de plus. Donc, tout à l'heure, quand je vous parlais de 18% d'augmentation du RDB, hein, c'était pas exactement sur la même période, mais c'est des périodes qui sont relativement concordantes. Vous voyez qu'en plus, les inégalités se sont creusées sur la période. Et encore, là, c'est avant la crise. On ne sait pas, au niveau des inégalités, ce qui se passe depuis 2008-2009. Je ne pense pas que les inégalités soient rétrécies depuis. Mais bon, on ne peut pas encore le vérifier. Donc on s'aperçoit que non seulement les dépenses de santé augmentent beaucoup plus vite, les dépenses de santé qui restent à charge des complémentaires et des ménages augmentent beaucoup plus vite que le revenu moyen des ménages français, hein, mais en plus, il y a un creusement des inégalités en termes de croissance des revenus. Les plus pauvres n'ont quasiment gagné aucun revenu supplémentaire sur la période. Alors en termes de protection, protection maladie, ici, c'est des chiffres 2006. Hein, j'aurais pu un petit peu les actualiser. On a des données un peu plus récentes, au moins 2008 hein, maintenant. Donc, en termes de couverture de base, de régime de base, quasiment aujourd'hui, tous les Français sont couverts. Du moins, tous les Français, entre guillemets, résidents. Quand je parle de Français, depuis le début, j'aurais dû le dire, hein, c'est les personnes qui sont résidentes sur le territoire français. C'est pas une question de nationalité, hein, c'est une question de résidence. Donc, les personnes en situation régulière, hein, sont quasiment toutes couvertes, 99,9%. Reste le problème après des personnes en situation irrégulière, mais évidemment, puisqu'elles sont en situation irrégulière, les statistiques remontent un petit peu plus difficilement à ce niveau-là. Donc, tout le monde est quasiment couvert au niveau de la couverture de base. Parmi ces 99,9%, vous en avez 2% qui sont couverts par la CMU de base. Alors, ensuite, le deuxième étage, donc la complémentaire santé. 93% des Français sont couverts au niveau complémentaire santé. Et dans ces 93%, 7%, c'est par la CMUC, donc par la CMU complémentaire. Alors, à partir de là, on pourrait se dire, on est dans une situation, et je saute la ligne d'après pour y revenir, et parmi les 7% restants, on estime qu'il y en a la moitié, c'est un problème financier, en effet, ils n'ont pas les moyens de se payer une complémentaire, et que l'autre moitié n'est pas concernée, soit parce qu'ils sont exonérés de tickets modérateurs, soit parce qu'ils sont jeunes et en bonne santé, et qu'ils estiment que ça ne vaut pas le coup de financer une complémentaire. Alors, on pourrait se dire là-dessus, finalement, le problème se pose pour la moitié des 7%. Donc il y aurait 3,5% des Français sur lesquels il y aurait un problème de protection, pas de base, mais de protection complémentaire. Et donc, on pourrait se dire, il y a 3,5% des Français qui vont être en difficulté en termes de financement de leurs dépenses de santé. Alors, en fait, c'est au MED ce que vous avez à la troisième ligne. C'est que ce n'est pas parce qu'on a une complémentaire santé que forcément c'est l'idéal. À la fois au niveau du coût de l'origine, c'est-à-dire qu'on peut avoir une complémentaire par l'entreprise où il faut se la payer soi-même. Et donc, plus on appartient à une grande entreprise, plus en moyenne, on sera bien protégé de ce côté-là par rapport à quelqu'un qui sera dans une PME. Et puis, deuxième chose, la qualité des contrats. Hein, c'est les contrats de complémentaires, vous en avez une gamme extrêmement étendue. Et donc, avoir une complémentaire, ça ne signifie pas forcément être correctement protégé. Alors, une manière de mesurer ça, une manière un petit peu indirecte de mesurer justement le problème que posent ces complémentaires santé, c'est de rapporter le coût de la complémentaire au revenu du ménage, ici par unité de consommation. Donc là encore, on prend en compte la dimension et la structure du ménage. Et donc on constate que sur les plus pauvres, hein, le premier bâton, on constate que le taux d'effort est 10%, c'est-à-dire que ces personnes-là, il y a 10% du revenu qui est consacré exclusivement au financement de la complémentaire. Alors, 10% de 800 euros, si on prend le sommet, mais alors bon, c'est entre 0 et 800 euros, donc mettons 400 euros, ça fait 40 euros par mois, ça paraît pas extraordinaire, 40 euros par mois pour une complémentaire santé. Hein. C'est un tarif qui est même très largement en dessous de la moyenne, mais 40 euros ben, par rapport à ce type de revenu, c'est un effort considérable. Et inversement, 1867 euros et plus, vous êtes pas sur des personnes extrêmement riches, hein, vous êtes pas sur... C'est des personnes, donc, catégorie moyenne, disons, hein, quand on est dans ces niveaux-là de tranches de revenus par unité de consommation, vous arrivez à 3%, un peu moins de 3% consacré à la complémentaire. Alors, le reste à charge, bon, je passe là-dessus, je passe directement au renoncement aux soins. La conséquence de ces problèmes de couverture complémentaire, de problèmes de, bon, que je n'ai pas évoqué ici, je pense qu'on l'évoquera, de déremboursement, les problèmes également de dépassement d'honoraires, etc., c'est qu'on a un taux de renoncement aux soins qui, pour la même catégorie que tout à l'heure, hein, c'est toujours les mêmes données, donc pour les moins de 800 euros par unité de consommation, le renoncement aux soins, il est de 25%. Il y a le quart de ces ménages hein, qui renoncent à un soin dans l'année pour des questions financières, et là où le renoncement aux soins, et là encore c'est pas étonnant, sont les plus élevés, hein, c'est le dentaire et l'achat de lunettes, hein, ce que vous avez en dessous. Alors, ça, c'est la première vision en termes de revenus. La deuxième vision, vous l'avez en bas à droite, c'est en termes de couverture et également d'évolution. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez 2002 et 2008. Alors, les personnes qui ont une couverture complémentaire, il y en avait 10% qui renonçaient à un soin dans l'année en 2002, ils sont 15% en 2008. Les personnes qui sont couvertes par la CMUC, il y en avait 15%, en gros 16% qui renonçaient aux soins en 2002, ils sont 21% aujourd'hui. Et les personnes qui n'ont aucune complémentaire, ni complémentaire mutualiste, privé, ni CMUC, eh bien ils étaient 25% à renoncer aux soins en 2002, ils sont 31% aujourd'hui. Donc on voit ici, et encore là on ne prend pas en compte la qualité de la complémentaire, hein, on prend uniquement en compte quel est le type de complémentaire ou l'absence de complémentaire. Donc on voit deux choses, que la couverture complémentaire va jouer sur le renoncement en soins, et deuxième chose, c'est que quelle que soit la catégorie, de toute façon les renoncements en soins sont en train d'augmenter. Et puis, bah, dernière chose, je vous engage, sur l'accessibilité financière, il y a le Haut Conseil de l'avenir, alors c'est pour l'avenir, ouais, c'est avenir de l'assurance maladie, mais alors c'est pour l'avenir, Haut Conseil de l'avenir pour l'avenir, enfin bon, il me manque le lien. Donc, qui vient de rendre un avis là en janvier 2011, tout récent sur l'accessibilité financière, avec un travail sur des indicateurs en termes d'accessibilité financière qui est extrêmement intéressant. C'est un travail assez pionnier, d'ailleurs eux-mêmes ils reconnaissent qu'il y a tout un travail de collection de nouveaux indicateurs à trouver là-dessus. C'est un avis hein, qui fait 25 pages, vous avez l'annexe qui fait 200 pages, mais c'est vraiment un premier travail de fond au niveau national là-dessus. Et dans une des toutes premières pages de l'avis, il apparaît, je crois que c'est la première page même, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins, en disant que c'est un choix politique essentiel du système de santé en France. Évidemment, cette phrase, c'est une phrase de Marx, hein, du milieu du 19e siècle. C'est vrai que c'est la base de notre principe de sécurité sociale de manière générale, mais, et donc de la base de notre système de santé en France. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette phrase aujourd'hui, par rapport aux chiffres que j'ai présentés? C'est que les dépenses de santé, elles doivent être socialisées. Le choix qui a été fait en 1945, il faut le confirmer. Pour trois raisons. C'est d'abord une question de justice sociale. Ensuite, c'est une question de bien-être. Hein. Question de bien-être, c'est une question d'état de santé, d'espérance de vie. Vous êtes parmi vous, il y a beaucoup de médecins, donc on sait bien que les soins réguliers, hein, à terme, il vaut mieux soigner régulièrement qu'aboutir à des soins en urgence. Donc cette socialisation des dépenses de santé, c'est nécessaire également en termes de qualité de vie pour la population. Mais surtout, et on n'insiste pas assez là-dessus, les dépenses de santé, c'est aussi un facteur de performance économique. Ça avait bien été souligné par Pierre Larocque dès 1945, hein, c'est que ces dépenses de santé, c'est un facteur de performance économique, je dirais, au moins à deux niveaux. C'est que c'est d'abord des emplois, c'est 2 millions d'emplois, hein, la santé en France, minimum 2 millions d'emplois. Ça fait fonctionner ce qu'on appelle le multiplicateur de dépenses, hein, ça nourrit la croissance économique. Et puis, deuxième effet de performance économique, ça renforce la productivité du travail, ça renforce la productivité des travailleurs. Donc, il ne faut pas l'oublier, hein, cet aspect performance économique des dépenses de santé. Et de cet aspect, sur cet aspect exclusivement performance économique, on voit bien que le système américain est complètement non performant, puisque c'est le pays qui consacre le plus, en termes de pourcentage du PIB, à la santé, pour des résultats qui sont extrêmement médiocres. Donc, en termes d'efficacité économique, c'est important à souligner. Mais le problème qu'il y a, à mon avis, aujourd'hui, c'est que cette socialisation des dépenses, elle est en opposition, alors d'une part, je dirais, avec l'évolution psychologique, hein, avec l'individualisme consumériste du marché. Chacun veut un produit particulier, veut qu'on se préoccupe de lui de manière individualisée. Deuxième problème, c'est ce qu'on appelle en économie les conséquences de l'antisélection. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Hein. C'est le fait que même si on veut être solidaire, si par exemple une mutuelle veut être solidaire, eh bien, à un moment donné, ça ne va plus tenir le choc du point de vue économique parce que les bons risques vont aller vers le privé, où on va aligner les primes sur les risques représentés. Et donc, la mutuelle qui veut être solidaire, la mutuelle qui veut ne pas faire payer plus cher les personnes âgées ou les personnes en mauvaise santé, eh bien, au bout du compte, va être obligée d'augmenter son niveau moyen de prime parce que les bons risques fuient ailleurs. C'est-à-dire que quand on parle de concurrence loyale et de dire, eh bien, après tout, on est dans un système concurrentiel et c'est le meilleur qui fait ses preuves, eh bien, dans ce système-là, on va contre la solidarité. Et donc, contre la solidarité, ce n'est pas forcément aller dans le sens de la performance macroéconomique. Et puis, enfin, il y a une troisième tendance, hein, c'est au niveau de la libéralisation des échanges de services, à la fois au niveau mondial, l'accord général sur le commerce des services, et puis au niveau de l'Union européenne, on est là aussi sur une tendance de fond qui n'est pas favorable à la socialisation des dépenses. Voilà, j'espère avoir pas fait trop trop long.
Et merci. Merci beaucoup. Je vous propose, comme d'habitude, de passer tout de suite à la deuxième intervention, puis après on aura une discussion commune.
Bien, donc on va continuer la réunion en parlant de la diminution des recettes dans les systèmes hospitaliers et l'impact sur la qualité des soins. Bien. Depuis quelques années, donc la diminution des recettes dans les systèmes hospitaliers français et l'impact sur la qualité des soins est un sujet qui a suscité beaucoup de débats contradictoires, principalement donc dû à une évaluation économique due à une accélération donc de la dette de l'assurance maladie et de façon concomitante donc une accélération de la pression budgétaire pour les établissements de santé. De même, face à la mise en place de la tarification de l'activité, donc cette stratégie de financement pour les établissements de santé qui l'objectif principal, c'était de gérer les dépenses au sein de l'établissement de santé. Dû également à une évolution sociale très marquée ces derniers temps, donc la participation des patients est de plus en plus importante dans l'évaluation des soins et de la qualité dans les systèmes hospitaliers. Donc les patients deviennent de plus en plus exigeants face à les soins qu'on peut prodiger aux patients. Et de plus, dû à un contexte réglementaire marquant pour l'amélioration de la qualité des soins dans les établissements de santé, principalement à partir d'une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles, la certification des établissements de santé ainsi que l'accréditation des professionnels de santé. Avant donc de parler de l'impact de la tarification de l'activité ou de la diminution des recettes dans le système hospitalier français, il est important de donner certains concepts. Je vais parler très rapidement parce que je pense que vous connaissez tous. Donc, la définition de la qualité des soins est assez vaste. Donc, il existe plusieurs définitions, mais toutes elles s'accordent à définir la qualité des soins comme un concept pluridimensionnel dans lequel ce concept va dépasser la seule appréhension de la pratique médicale, c'est-à-dire que la qualité des soins va prendre en compte une prise en charge globale de patients qui ne s'arrête pas uniquement dans l'efficience, l'efficacité clinique, mais aussi donc la prise en charge de patients globalement, c'est-à-dire l'accessibilité temporelle, c'est-à-dire la relation interpersonnelle entre les professionnels de santé et les patients, que ce soit pour donc la gestion de la douleur, que ce soit pour un soutien psychologique, que ce soit pour la prise en charge clinique du patient. Donc, la qualité des soins était définie par la OMS, donc comme le fait de garantir à chaque patient les meilleurs résultats en termes de santé conformément à l'état actuel de la science médicale, au meilleur coût et au moindre risque iatrogénique. L'efficience, c'est la capacité d'une organisation à obtenir les meilleurs résultats à moindre coût. Et les systèmes de tarification à l'activité au T2A, donc, depuis 2005, les systèmes de santé français adoptaient une nouvelle stratégie de financement pour les établissements de santé basée dans leur activité. Les principes donc, de cette tarification à l'activité, c'est donc les financements des établissements de santé augmentent de façon linéaire conforme les nombres de patients pris en charge ou traités dans un groupe homogène des malades soient plus importants. Donc, les systèmes de tarification ces systèmes donc, de tarification utilisent des tarifs qui ont été identifiés au préalable pour tous les groupes homogènes des séjours. Donc, les objectifs ou la vocation de cette tarification à l'activité, c'est d'améliorer la transparence dans les dépenses en liant donc, le financement des établissements de santé à la productivité. Il est considéré également comme un mécanisme d'équité dans l'allocation des ressources et aussi il vise donc à améliorer l'efficience dans l'établissement de santé. La question sur l'impact de la tarification à l'activité sur l'amélioration de la qualité des soins est posée. Plusieurs débats contradictoires ont eu lieu ces dernières années. Justement pour confronter les côtés positifs et les côtés négatifs de la mise en place de cette tarification à l'activité. Donc, du point de vue du contexte plus axé de la tarification à l'activité sur la productivité, et cette nouvelle stratégie de financement ne cherche pas forcément à la recherche de l'amélioration de la qualité. C'est ça la question qu'on se pose actuellement. Donc, la tarification à l'activité est assez proche de la tarification à l'acte dans la médecine libérale, c'est-à-dire plus j'hospitalise, plus je gagne d'argent. Donc, cette tarification à l'activité, comme je disais tout à l'heure, ne conduit pas forcément à une amélioration de la qualité des soins, et même elle peut inciter donc, un effet pervers. C'est quoi cet effet pervers? C'est d'économiser au détriment de la qualité des soins. Et ça, on peut le mettre en évidence justement avec une diminution de la durée des séjours dans les établissements de santé, une réduction des soins fournis aux patients, donc des médicaments, des procédures diagnostiques, des procédures thérapeutiques, un renvoi prématuré des patients à leur domicile. Il incite également les décourages dans l'admission des patients qui sont assez lourds, qui présentent dans des pathologies assez lourdes et qui ne sont pas rentables financièrement parlant. Donc la tarification à l'activité incite une discrimination au niveau de l'accessibilité aux soins. De même, la tarification à l'activité incite à l'établissement de santé à acquérir un comportement opportuniste lors des codages des pathologies au sein de l'établissement de santé, ce qu'on appelle la misclassification. C'est-à-dire qu'un patient qui a plusieurs pathologies, principalement les patients âgés, donc l'établissement de santé va répertorier ces patients dans un groupe homogène de séjours plus rentable, alors que ces patients révèlent cliniquement d'un autre. On sait également que les premiers postes de dépenses à niveau hospitalier, c'est la gestion du personnel. L'hôpital, donc, pour équilibrer ces dépenses, va diminuer les effectifs à niveau de l'établissement de santé. Ceci va avoir un impact négatif sur la qualité des soins. Pourquoi ? Donc, en diminuant les effectifs, il y aura une charge de travail beaucoup plus importante. Il y aura un stress important dans l'équipe hospitalière. Ceci va créer de l'absentisme et toutes ces contraintes vont avoir un impact négatif sur les services qu'on peut rendre aux patients. Donc la tarification à l'activité va aussi inciter l'augmentation des admissions et l'augmentation des interventions du jour, ou bien souvent des interventions qui ne sont pas appropriées ou ne sont pas adéquates. Bien. Donc la question de la dégradation de la qualité des soins à partir donc, de la mise en place de la tarification à l'activité ou de la T2A est posée. Et ça, on peut le constater à court terme lorsqu'un patient sort de l'hôpital, donc avec un état de santé des fois pas très adapté, c'est-à-dire que les patients... Il est dans un état dans lequel ne sera pas pertinente encore la sortie, mais pour augmenter le turnover des hospitalisations dans ces établissements de santé, les patients sortent d'une façon prématurée. Et à long terme aussi, on peut le constater par l'apparition des événements indésirables, surtout médicamenteux, dû principalement à une mauvaise communication entre professionnels et aussi à une éducation thérapeutique insuffisante. Donc c'est à ce niveau-là que la tarification à l'activité doit être appréhendée. La tarification à l'activité ou la diminution des recettes dans le système hospitalier a été mise en place, pas uniquement en France, sino ailleurs, dans des autres pays européens et aussi aux États-Unis. Donc, pour faire l'état des lieux, je fais une revue de la littérature, justement, pour savoir où est-ce qu'on était par rapport à la tarification de l'activité. Et donc, je vais vous présenter ce que j'ai retrouvé. Donc, la meilleure partie des articles analysés sont des articles anglo-saxons. Il s'agissait des études épidémiologiques de type avant-après, c'est-à-dire qu'ils en avaient comparé des indicateurs de qualité avant la mise en place de la tarification de l'activité et après la mise en place de cette nouvelle stratégie de financement. Les indicateurs de qualité qu'ils en avaient évalués, ils en étaient la mortalité intra- et post-hospitalière, le nombre des admissions, la durée des séjours, le nombre de réadmissions, l'évaluation de l'état de santé du patient au moment de la sortie, les soins à domicile ou les consultations en ambulatoire, les taux des infections nosocomiales et la qualité perçue par les patients. Donc tous ces indicateurs, ils ont été évalués. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé ? Donc, qu'est-ce qui ressort de cette revue de la littérature ? Donc, un effet significatif sur la diminution de la durée moyenne des séjours a été mis en évidence. Une diminution de la qualité perçue par les patients a été également montrée. une externalisation pardon, de la prise en charge, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation des consultations en ambulatoire et des soins à domicile. En revanche, il n'y a pas eu de lien significatif sur la mortalité intra- et post-hospitalière. Il n'y a pas eu d'effet significatif non plus sur les taux des infections nosocomiales. Par ailleurs, certaines dimensions comme l'accès aux soins, les relations humaines entre les patients et les professionnels de santé, la prévention, l'éducation pour la santé, ainsi que la coordination entre professionnels, ils ont été largement laissés de côté. Il faut rester prudent donc, avec ces résultats qui ont été mis en évidence suite à la revue de la littérature, parce que ce sont des études qui ont été faites dans un système de santé différent de nos systèmes français. Et donc, on peut difficilement extrapoler ces résultats. Cependant, on a déjà une impression, une tendance de ce qui peut donner la tarification de l'activité et l'impact sur la qualité des soins. Donc, finalement, l'impact de la qualité des soins n'est pas si péjoratif comme on le pensait. Bien, en France, l'évaluation de l'impact de la tarification à l'activité n'a pas encore été faite d'une façon objective. Cependant, l'évaluation de l'amélioration de la qualité des soins était réalisée à partir de deux optiques différentes. Donc, les coûts du défaut de la qualité des soins, donc la non-qualité, et l'impact médico-économique des interventions ou des démarches d'amélioration de la qualité au sein des établissements de santé. Donc ceci, c'est une étude pardon, qui a été faite par le CECA, donc c'est les centres de coordination et de l'évaluation de la qualité en région d'Aquitaine, donc c'est l'équivalent de la structure 3P en région Aquitaine. Donc eux, ils ont analysé les coûts de la qualité et de la non-qualité au sein des différents établissements de santé publics et privés de la région d'Aquitaine. Et finalement, ils ont montré donc, que les coûts moyens de la non-qualité étaient beaucoup plus importants que les coûts des stratégies ou des démarches d'amélioration de la qualité. Donc par exemple, à niveau des événements indésirables, les coûts moyens associés à un événement indésirable médicamenteux étaient les alentours de 4 000 euros par patient, les infections nosocomiales les alentours de 9 000 euros par patient et les escarres 1 200 euros par patient. Dans cette étude, donc, ils ont mis en évidence également que l'utilisation, qui était très très souvent l'utilisation inadéquate des ressources, principalement liée à la prescription inappropriée, à des interventions non justifiées, à l'admission des patients et des hospitalisations également inappropriées, non justifiées, et également dû à un défaut de circuit des médicaments. Dans la même étude, donc l'évaluation de l'impact des démarches de l'amélioration de la qualité, ils ont montré que les coûts moyens d'un programme de prévention des infections nosocomiales coûtait environ 1 400 euros par patient. Donc si on compare à 9 000 euros et lorsque l'infection nosocomiale est déjà présente chez les patients, on peut s'apercevoir que l'écart est énorme. De même, les contrôles de la gestion de la prescription inappropriée des antibiotiques, donc cette politique d'amélioration de la qualité des soins, pouvait diminuer en 19% les dépenses annuelles dédiées justement à cette problématique. Donc, en France, à l'heure actuelle, on ne peut pas déterminer l'effet positif ou négatif de l'impact de la tarification de l'activité sur la qualité des soins, parce qu'il n'y a pas une étude objective qui a mesuré cet impact, pas encore en tout cas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'après la revue de la littérature, l'impact reste assez mitigé. Dans certains cas, donc, l'impact est négatif. On avait vu que ça diminuait la durée des séjours, qu'il avait certaines incitations à des effets pervers au détriment de la qualité des soins. Mais en même temps, donc, il n'y a pas de résultats objectifs sur lesquels on puisse s'appuyer pour déterminer cet impact péjoratif sur la qualité des sons. Bien, donc cette analyse reste assez restreinte. Ce qu'on peut conclure, c'est que la tarification de l'activité a un sens purement économique. Donc le but est d'améliorer la transparence lors des dépenses dans l'établissement de santé, et également de proportionner donc un mécanisme d'équité, une allocation en fonction de la productivité dans chaque établissement de santé. Sa vocation à assurer une couverture optimale et une amélioration de la qualité des soins est mise en question. L'énigme de l'impact de la T2A sur la qualité des soins reste encore incertain. On ne peut pas trancher et déterminer, se positionner sur les côtés positifs ou négatifs de la tarification de l'activité. Ce qui est certes, c'est que la tarification de l'activité a plutôt tendance à économiser, bien sûr, au détriment de la qualité des soins. Ce n'est pas encore objectivement parlant démontré, mais on voit bien qu'il y a une diminution de la durée des séjours, il y a une diminution des soins fournis aux patients, il existe donc un renvoi prématuré des patients à leur domicile, des patients hospitalisés hein, à leur domicile. Il existe une externalisation beaucoup plus importante de la prise en charge en ville. Et il existe une diminution de réduction des effectifs au niveau de l'établissement de santé, que ça va influencer, bien évidemment, de façon péjorative dans la qualité des soins. Donc, pour mesurer l'impact de la qualité de la tarification de l'activité sur la qualité des soins, il est important donc de faire des études médico-économiques qui puissent évaluer l'impact, en utilisant donc des indicateurs de qualité valides, fiables, et surtout qu'ils soient facilement renseignés pour les établissements de santé à partir donc du système d'information médicale dans chaque établissement de santé. Je voudrais donc finir ma présentation, donc c'est une présentation assez rapide, pour en disant donc cette phrase: l'efficience d'un système de santé est un patient pris en charge au bon moment, dans la bonne structure, qui bénéficie des soins de qualité adaptés, tout en contrôlant les coûts. Merci de votre attention.
Bien, merci en tout cas aux deux intervenants d'avoir construit chacun de leur côté deux interventions qui se révèlent tout à fait complémentaires et adaptées au sujet qu'on avait prévu de traiter ce soir. Bon, donc vous connaissez la règle de nos réunions. Hein, le principe, c'est un débat avec la salle dans cette deuxième partie. Simplement, pour introduire le débat, une réflexion qui m'était venue d'ailleurs en préparant cette soirée, à propos d'un concept qu'on a vu apparaître dans la nouvelle version du manuel de certification des établissements de santé, donc qui est un petit peu la méthode de référence autour de laquelle s'organisent toutes les notions de qualité des soins à l'hôpital. Et c'est la notion dite de bien-traitance. Alors, la bien-traitance, hein, c'est un concept nouveau qui est apparu dans le monde sanitaire avec cette version du manuel dit de 2010, donc il y a un an et demi, et qui fait partie donc maintenant des règles de bonne pratique à l'hôpital. Et la bien-traitance, c'est une notion qui vient du monde médico-social. Hein, et pour chercher un petit peu ces sources, j'étais tombé sur un document d'une instance qui joue un peu le même rôle que la Haute Autorité de Santé, mais pour le médico-social, qui s'appelle l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et qui donc a introduit des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en matière de bien-traitance. Et pour étayer, alors la bien-traitance, c'est simplement bien s'occuper des gens. Je raccourcis, mais c'est bien s'occuper des gens. Alors maintenant, ça devient un critère d'évaluation de la qualité des soins. Et pour illustrer la problématique, ils ont mis en place des groupes de travail qui ont interviewé des gens soignés pour les recueillir leur positionnement par rapport à cette question. Et j'avais relevé la parole d'un patient ou d'une patiente. J'aurais aimé, alors à propos d'un séjour à l'hôpital, j'aurais aimé avoir au moins une personne parmi mes soignants qui ait une vision globale sur ma situation personnelle, parcours médical, situation administrative, familiale, professionnelle, etc. L'indifférence, la méconnaissance sont parfois à elles seules source de violences faites à l'individu, de bourdes ou de maladresses monumentales. La qualité de la confiance, du relationnel soignant-soigné en pâtissent forcément. Mais les contraintes budgétaires font, il est vrai, de la disponibilité des soignants une denrée de plus en plus rare. La généralisation du paiement à l'acte de la médecine ambulatoire induit une notion de rentabilité qui peut parfois être fort nuisible à la qualité des soins. Donc ça se référait à la notion de bien-traitance. Et j'avais lu ailleurs, mais j'ai traduit là, des questions que se posent les organisations de soignants par rapport à cette notion de bien-traitance, parce que ce n'est pas une notion aussi simple qu'elle en a l'air. La bien-traitance n'est pas un effort à faire en plus du travail soignant au quotidien. En tout cas, quand on s'engage dans le travail soignant, on ne pense pas que c'est un effort en plus. C'est un élément constitutif du travail soignant au même titre que la compétence. Mais la bien-traitance suppose d'être, comme ça a été souligné par le patient, suppose d'être disponible à l'autre. Et la disponibilité, c'est du temps et de la sécurité. Et donc, on peut en déduire que la condition nécessaire et non suffisante, c'est du personnel suffisant en quantité et en qualité, c'est-à-dire en niveau de formation, pour lui-même se sentir en sécurité par rapport aux tâches qu'il a à accomplir. Et donc, le paradoxe de la situation actuelle, c'est que de ces évidences que je viens d'évoquer, on fait un critère mesurable, objectivable, séparé du reste. C'est-à-dire que la bien-traitance n'est plus renvoyée à l'organisation globale de l'établissement, mais au respect d'un cahier des charges extérieur à ces conditions globales. Et je trouve que c'est un petit peu ça le paradoxe de la qualité auquel on est soumis actuellement. C'est-à-dire que la qualité, ça nous est proposé non pas comme quelque chose qui s'intègre à notre formation, à notre motivation pour faire ce travail, mais quelque chose qui doit être objectivé en dehors. Et je crois que sur ce genre de thématique, c'est dangereux parce que ça renvoie finalement à chaque professionnel la responsabilité de dysfonctionnement éventuel qui, pour au moins certains d'entre eux, je ne dis pas non plus que chacun est exonéré de sa responsabilité individuelle, mais pour au moins certains d'entre eux, ne relève pas de sa capacité à lui. Si il n'y a pas assez de soignants dans un service, ce n'est pas de la faute des soignants qui sont là, même si ça n'est pas que le seul déterminant de la bienveillance. C'était simplement une introduction au débat. Si, ça doit marcher. Ça prend un petit peu de temps.
Oui, oui, en effet, je compatise justement ce que vous venez de dire. C'est en effet que la diminution des recettes dans le système hospitalier donc, va justement avoir un effet négatif justement sur la bien-traitance des patients dans le sens où la relation médecin-patient deviennent de plus en plus rares, même le reste des professionnels de santé avec donc les patients, la communication devient assez restreinte. Donc, on a vu dans la présentation qu'il y a ces dimensions-là, donc l'accessibilité aux soins, la relation humaine, la coordination entre professionnels de santé, qui va être donc dégradée notablement, dû à la mise en place de la tarification de l'activité dans laquelle celle-ci est plutôt axée sur la productivité. Donc ce qui compte, c'est la productivité, c'est faire plus de chiffres pour améliorer les recettes, augmenter les recettes au sein de les structures.
Pour qu'on enregistre les questions, ça serait bien qu'il y ait un micro. Ce que je rappelle à l'auditoire, que toutes les séances sont enregistrées et disponibles sur le site de l'espace Mendès France.
Donc oui, une question à Gilles Kerr, donc sur la première partie de son exposé, sur la protection sociale. J'aimerais avoir la définition de ce que comporte la protection sociale en entier. Enfin, parce qu'après, il a été question des dépenses de santé. Qu'est-ce qui s'ajoute à ça, donc pour faire les dépenses de la protection sociale? J'imagine que derrière il doit y avoir le chômage, j'imagine, mais bon, voilà. J'aimerais bien donc des précisions par rapport à ça. Et puis deuxième question, et là c'est plus, enfin, un étonnement sur la part de la part des frais de gestion dans les mutuelles. Bon, il se trouve que depuis que je travaille, je cotise aussi à une mutuelle. Alors c'est vrai que c'est une mutuelle professionnelle gérée par les salariés, etc. Enfin bon. Mais je n'ai pas en tête que le taux de gestion atteint des proportions comme ça. J'ai plutôt en tête, mais je n'ai pas vérifié les derniers chiffres, mais que c'était plutôt quelques pourcents des cotisations qui étaient consacrées aux aspects de gestion. Le 26% me paraît, enfin, ou le quart me paraît énorme en termes de chiffres. Alors, donc des précisions par rapport à ça, merci.
Je ne sais pas s'il marche, celui-là.
Oui, il marche tout ça.
Oui, sur le premier aspect, la composition des dépenses de protection sociale. Donc, par ordre d'importance, disons, c'est la vieillesse qui vient en premier. La vieillesse, c'est 46%. Ensuite, donc, c'est la santé, 35%. Donc, vous voyez que simplement vieillesse et santé, ça fait 80% du total. C'est les deux gros morceaux. Alors, ensuite, on va trouver, mais à un niveau beaucoup plus faible, qui est de l'ordre de 10%, c'est la famille, dépenses donc de prise en charge de la famille. Ensuite, on trouve l'emploi, donc tout ce qui est assurance chômage, notamment. On va trouver le logement, ensuite. Et puis, tout en bas, à quelques petits pourcents, on trouve pauvreté et exclusion sociale. Avec, à l'intérieur, pourtant, tout ce qui est RSA, enfin, revenu minimum auparavant, RSA aujourd'hui. Mais ça représente, de mémoire, 1 quelque chose pourcent de la protection sociale. Donc voilà en gros les grandes composantes de la protection sociale, mais il faut savoir que c'est pour ça qu'on parle tant de la maladie et de la vieillesse, c'est que c'est 80%, c'est les deux gros morceaux hein, avec ça. Sur la deuxième question, alors les frais de gestion, deux choses par rapport à ça. Première chose, c'est que les mutuelles n'aiment pas communiquer là-dessus. C'est le moins qu'on puisse dire. Simplement, moi j'avais... Alors, 25%, là, c'est le chiffre officiel que j'ai trouvé dans un rapport d'un sénateur de 2008 hein, au Sénat sur, je crois, le plan de financement de la Sécurité sociale. Donc, vous pourrez le retrouver. Mais il se trouve que moi, j'avais bossé là-dessus dès 2003 à partir d'études américaines qui montraient cet écart aux États-Unis entre les frais de gestion privés-publics. Alors, aux États-Unis, ce n'était pas des mutuelles, mais c'est la comparaison système public et puis assurance privée. Et que moi, je me suis amusé à les recalculer concernant la France et que j'ai abouti... Alors, j'étais en dessous de 25% pour les mutuelles, j'étais à 15-20% pour les mutuelles. Et j'étais pour les assurances privées à 25%. Alors, ensuite... Donc, les mutuelles n'aiment pas beaucoup communiquer par rapport à ça. Alors, ensuite, il faut savoir que dans les comptes de gestion des mutuelles, c'est extrêmement complexe d'aller recalculer exactement les frais de gestion. Et que ce qu'on appelle les frais de gestion, c'est un mauvais terme. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces calculs-là, quand on cite 6, 25%, etc., c'est tout ce qui ne retombe pas dans la poche des assurés. C'est-à-dire que vous prenez 100 euros de prime, c'est l'idée que dans une mutuelle, il y a 75 euros qui vont retomber sous forme de prestations à l'assuré, et il y a 25 euros qui ne lui sont pas redistribués et qui partent donc dans ce qu'on peut appeler les frais de gestion au sens large. Mais concernant les compagnies d'assurance privée, ça va aussi, c'est aussi le profit des actionnaires, ce qui n'est pas le cas des mutuelles. Alors, comment on peut expliquer ces écarts hein, quand on regarde la composition de ces 25%, c'est ça qui est intéressant. Le premier aspect, c'est un petit peu ce que disait Henry Ford à propos de la Ford T noire. C'est-à-dire, quand vous avez un seul produit, c'est beaucoup moins coûteux à produire et à gérer quand vous avez plusieurs produits. Donc, quand on est dans le domaine de la complémentaire santé, vous avez plusieurs gammes pas forcément dans les mutuelles, mais dans certaines mutuelles, il y a plusieurs gammes. Enfin, je raisonnais par rapport à la MGN où il n'y avait qu'un produit. Mais bon, dans les mutuelles, il y a plusieurs gammes, mais il y en a encore plus dans les compagnies d'assurance privée. Donc gérer plusieurs produits, c'est toujours plus coûteux que d'en gérer un seul. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que ce soit les mutuelles ou les compagnies d'assurance privée sont obligées de faire de la pub. Il s'agit de défendre sa part de marché, il s'agit de faire venir les clients. La sécurité sociale n'a pas besoin de faire sa pub, c'est obligatoire. Donc, il y a des frais de communication, des frais de publicité dans les compagnies d'assurance privée, des frais de courtage, etc., qui sont très, très, très importants. Le troisième aspect, il y a des... Et c'est de plus en plus important aujourd'hui. Au niveau européen, il y a des ratios de solvabilité, des ratios de provision qui sont imposés aux compagnies d'assurance et aux mutuelles qui sont de plus en plus élevés. La sécurité sociale n'y est pas soumise. D'accord. Et ça augmente de manière très très forte. Et puis, alors pour les compagnies d'assurance privée, je l'ai cité, il y a le profit aux actionnaires également, hein, ce qui n'est pas le cas de la Sécu ou de la Mutuelle. Et puis également, bah, il faut aussi le dire, hein, au niveau des salaires, les salaires à la Sécu n'ont rien à voir avec les salaires dans les mutuelles et les salaires dans les compagnies d'assurance privée. Hein, on est plutôt en dessous en moyenne, notamment au niveau de l'encadrement aussi. Alors ça ne joue pas sur, c'est peut-être à 0,5% de l'écart, mais il faut quand même en parler. Bon. Enfin, voilà, il y a tout ça qui joue. Et donc, les études américaines, notamment alors aux États-Unis, intra-américaines, mais aussi de comparaison du système américain avec le système canadien, par exemple, dès le milieu des années 80, on soulignait ça. C'est une chose dont on a très, très peu parlé en France jusqu'à très, très récemment, c'est-à-dire de 3-4 ans. Ça commence à monter. Et moi, je suis allé le vérifier sur la MGN. Alors, j'ai recalculé et je suis arrivé à presque 20%. Non redistribué aux assurés. Alors que si on va regarder dans le chiffre officiel, en effet, je ne sais plus, de mémoire, je dirais 8-10%, mais il faut tout recalculer et on arrive à ça. Donc voilà ce que je veux dire là-dessus, c'est quelque chose qui est un petit peu complexe, sur lequel évidemment les mutuelles ne communiquent pas. Alors moi, quand j'ai fait mon étude, ce qui m'a le plus amusé, c'est que ça a d'abord intéressé les Suisses, parce qu'il y avait un référendum en Suisse sur la... la sécurité sociale, entre guillemets, avait été privatisée en Suisse. Et il y avait un référendum pour savoir si on allait la renationaliser. C'est pas passé. Mais donc, il y a toute une étude qui a été menée en amont là-dessus. Et ils m'ont interrogé par rapport au calcul que j'avais fait. Et puis ensuite, ça a intéressé aussi la CNAM, TS, qui à un moment donné, c'est il y a 5-6 ans, j'ai reçu un coup de téléphone d'un chargé de mission du directeur qui étudiait ça. Mais... j'ai jamais su ce que c'était devenu. il faut le dire, il y a une étude officielle qui a été menée par la CNAMTS là-dessus, qui cherchait à comparer justement les frais de gestion, mais ça n'a jamais été rendu public. Voilà. Et c'est réapparu, donc, et là je l'ai vu récemment, c'est réapparu donc, en 2008 dans un rapport d'un sénateur, mais c'est assez marginal. Et pourquoi je l'ai vu dans le rapport du sénateur 2008 ? Parce que c'est repris justement par l'avis du Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie, dans le rapport de janvier 2011, il y a quelques lignes là-dessus aussi. Voilà. Donc, voilà sur les précisions des coûts de gestion. Donc, ce n'est pas coûts de gestion en tant que tel, hein, c'est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, de mémoire, dans ce qui était calculé, il y avait aussi tout ce qui était campagne de prévention collective à l'intérieur, concernant la sécurité sociale, dans les 6,4%. La prévention individuelle apparaît ailleurs, dans les dépenses de prévention. Par contre, de mémoire, la prévention collective apparaissait à ce niveau-là. Voilà.
Oui, qu'est-ce qui rend obligatoire le recours aux complémentaires ? Et est-ce qu'on peut imaginer un système dans lequel il n'y aurait plus de complémentaires ?
Il n'y a rien qui rend obligatoire le recours aux complémentaires. La complémentaire n'est pas obligatoire. Non, elle n'a jamais... Elle n'a jamais été obligatoire. La complémentaire n'est pas obligatoire. Alors moi, je vais vous parler d'un pays où la complémentaire a beaucoup moins de rôle. Où vous avez des remboursements. Je vais le retrouver. Un pays qui n'est pas très très lointain, où au lieu que par exemple les soins, les visites chez le généraliste soient remboursés à 70% par le régime sécurité sociale, hein, le régime de base, le régime obligatoire, c'est 90%. Où les honoraires des auxiliaires médicaux, c'est 90% au lieu de 60%. Où les médicaments, c'est du 80 à 90% au lieu de 35 à 65% selon les types de vignettes. Où les transports, c'est du 100%. Où l'analyse et les examens de biologie, c'est 90% au lieu de 60%. Où le forfait journalier hospitalier est remboursé à 100%. Où le ticket modérateur plafonné de 18 euros est remboursé à 100%. Et où le ticket modérateur à l'hôpital est remboursé à 100% au lieu de 80%. Ce pays, vous avez bien compris, ça se trouve en France.
Ouais.
C'est une région française, enfin une région, c'est le régime d'Alsace-Moselle. Régime Alsace-Moselle qui couvre donc les taux que j'ai donnés, hein, c'est les chiffres officiels, même chose, avis du Haut Conseil donc pour l'avenir de l'assurance maladie. Hein, c'est la dernière annexe, c'est très marrant. Je suis tombé dessus par hasard, ça fait 195 pages, les trois dernières pages sont consacrées au régime d'Alsace-Moselle. Et donc, vous avez toutes les statistiques là-dedans. Et comment c'est financé? C'est financé par une cotisation obligatoire, cotisation sociale obligatoire, qui est actuellement de 1,6%. Donc, en plus de la cotisation maladie habituelle, vous avez ce 1,6% en plus. Et ce qui est intéressant, donc, dans ces trois pages-là, c'est qu'ils ont calculé, ça représente par bénéficiaire, c'est cette cotisation de 1,6%, ça représente par bénéficiaire en moyenne 175 euros par an. À titre de comparaison, en moyenne nationale, la complémentaire santé coûte à un Français moyen 454 euros par an. Voilà. Donc, vous avez là un exemple, une réponse à votre question et qui existe. Donc, je vous rappelle, un régime d'Alsace-Moselle, hein, c'est valable depuis 1945. Hein, c'est une spécificité qui a été conservée avec d'autres spécificités. De droit local, hein. Et donc voilà, vous avez un exemple ici. Et dernière chose, au niveau des dépenses, on pourrait se dire on nous dit toujours qu'il faut responsabiliser le patient, il faut appliquer le principe de la franchise, du ticket modérateur, etc. Donc on pourrait se dire les dépenses doivent exploser en Alsace. Eh bien pas du tout, puisque l'étude montre qu'à structure de population égale, eh bien la consommation est même très légèrement inférieure en Alsace par rapport au reste du territoire français. Très, très légèrement. Disons, au même niveau. Donc, les dépenses sont au même niveau. Alors, après, il y a des différences selon les types de dépenses, mais la dépense totale est exactement au même niveau que la moyenne française, donc il n'y a pas de dérapage de ce côté-là. Et en plus, le pourcentage de 1,6%, alors là, il faut que j'aille voir en détail, ça a même diminué, puisque c'était 1,8% il y a 3-4 ans. Donc, non seulement, ils ne sont pas obligés d'augmenter le pourcentage. Alors, j'en avais parlé avec Gérard il y a déjà 6 mois, hein, on avait parlé de ça. Je lui avais dit, j'ai rien trouvé sur Internet concernant le régime d'Alsace-Moselle. Alors, concernant les caractéristiques qu'on trouve, mais concernant justement cette analyse, on parlait d'analyse médico-économique du régime d'Alsace-Moselle, j'avais rien trouvé, et c'est amusant, c'est juste en préparant pour aujourd'hui que j'ai trouvé ça. Je suis tombé sur ces trois pages-là, qui sont toutes récentes. C'est des analyses à creuser, mais là aussi, c'est pas très très médiatique. On va dire ça. Ça passe pas, ça. Oui, évidemment.
Moi, je veux bien rajouter, par rapport aux complémentaires, moi, je pense qu'aujourd'hui, vu le système, on ne pourra jamais revenir en arrière. Enfin, c'est-à-dire que dire l'équivalent des cotisations données aux complémentaires allant au régime général qui compenserait, c'est un retour en arrière qui est... On ne voit pas comment une société peut... Mais par contre... Ce que je peux dire, parce que là, on n'est pas encore... On parle de la prestation dépendance, qui n'est pas encore créée, et pour lequel on va mettre en place, de façon quasi certaine, alors que là, c'est pas encore créé, un système à 2 ou 3 étages. Avec très certainement un étage... étatisé ou qu'on pourrait appeler sécurité sociale, même si ça ne s'appelle pas la sécurité sociale, et des étages complémentaires. C'est-à-dire que là, quand ce n'est pas encore créé, on pourrait imaginer que toutes les cotisations aillent dans la même caisse. Mais au vu des pressions de la mutualité et de l'assurance, ça semble aujourd'hui utopique de penser que l'Assemblée nationale pourra voter, surtout qu'on parle d'un vote avant la fin de cette année, quelque chose qui ne diversifierait pas les modes de financement. Et donc, une fois que ça sera créé, on pourra encore une fois pas revenir en arrière. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dire aux mutuelles et aux assurances santé privées, on vous supprime, je vois pas très bien quel gouvernement, quel parlement peut faire ça, et avec les conséquences que ça peut avoir. Quoi. Mais au moins pour quelque chose qui n'est pas créé comme l'assurance dépendance, qui va rentrer dans les dépenses de protection sociale, il serait quand même intéressant de ne pas commencer par mettre 2 ou 3 étages.
Alors pour illustrer justement les questions de remboursement de soins et de qualité des soins, il y a quelques années, il y a un assureur privé qui avait eu une idée géniale. C'était la branche santé, je crois, de AXA, qui était dirigée, je ne sais pas si elle l'est toujours, par un ancien directeur de la CNAM, en plus, puisqu'il s'agit de Gilles Joinet, et qui avait été socialiste autrefois. Ce n'est pas tout à fait anecdotique par rapport à la question. Donc il avait eu une idée géniale. Il dit, voilà, nous, on veut montrer qu'on peut être financeur de santé et très exigeant en matière de qualité des soins. Et son idée, c'était d'inventer une couverture d'élite qui coûtait, je crois que c'était de l'ordre de 20 000 euros par an, enfin un truc complètement fou. Et pour cette somme-là, il s'est engagé à faire bénéficier ses heureux clients d'un panel de spécialistes recrutés par AXA sur la base de l'exigence de respecter un cahier des charges très strict, donc au regard de règles de qualité des soins. Alors, il disait, on recrute les 200 meilleurs spécialistes français. C'est à savoir ce que ça veut dire. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et les gens qui pourront payer ce que nous, on leur propose comme tarif, ben, ils auront la garantie d'accéder à l'un de ces 200 meilleurs spécialistes français qui s'engagera lui-même, pour qu'on prenne en charge ses soins, à respecter un cahier des charges très exigeant sur la qualité. Alors, curieusement, dans un premier temps, cette annonce était passée relativement inaperçue. Et c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins qui avait pointé ce truc-là, qu'il avait bruyamment dénoncé en disant que c'était parfaitement incompatible avec la déontologie médicale et que les médecins qui accepteraient d'entrer dans ce système seraient radiés, ce qui fait qu'évidemment, ça a cassé le système tout de suite. Parce que c'était quand même une idée parfaitement... bizarre, on va dire. Mais c'était là où on mélangeait l'exigence de qualité et le financement. Mais du coup, c'était le financeur qui fixait les règles, quoi. Hein. Là, du coup, alors quelles pouvaient être les règles, j'en sais rien. Mais enfin, on peut imaginer que pour ce prix-là, il pouvait y avoir des règles compatibles avec ce que nous aussi, on appelle de la qualité. La carte Vital Gold.
J'ai été intéressé là parce que vous avez présenté tout à l'heure votre étude sur bibliographique sur la T2A et la qualité des soins. Et alors, d'abord, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas d'étude qui soit faite en France, quoi. C'est quand même un sujet a priori important. Donc, alors, je me suis demandé s'il y avait des études qui étaient en préparation ou pas. Et puis, je me suis demandé aussi, parce que ça, c'est une recherche, je ne me permets pas de mettre en cause votre recherche, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est pas toujours facile, les recherches bibliographiques, parce que je dis ça parce que j'en fais aussi, et des fois, on a un petit peu de mal, effectivement, avec la littérature francophone qui n'est pas publiée dans des revues à comité de lecture, et du coup, on ne trouve pas dans la littérature internationale, donc ça dépend des sources dans lesquels on cherche. Donc, je me demandais si, en fait, il n'y avait pas quand même des choses intéressantes qui étaient faites sans être forcément publiées dans la littérature internationale, ce qu'on va trouver uniquement quand on fait... Enfin.
Oui, alors, concernant votre question, c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi aussi, j'étais étonnée qu'en France, il n'existe pas une étude qui parle justement de l'impact de la tarification de l'activité. Vu que c'est quand même un sujet très intéressant et d'actualité, surtout. Donc, sur la meilleure partie des articles que moi j'ai trouvés, c'était vraiment des articles anglo-saxons. Et sur la littérature française, ce que j'ai trouvé, c'était plus des articles d'économie de la santé, qui parlaient sur l'impact de la T2A sur la qualité des soins. Mais il n'y avait pas des études médicaux qui parlaient de ces sujets-là, en tout cas de l'évaluation de la qualité des soins. Il existe actuellement, par contre, une étude qui est faite par l'équipe du docteur Lombray, qui, justement, est en train d'analyser l'impact de la tarification de l'activité sur la qualité des soins. Et donc, cette étude, il me semble, n'est pas encore finie. Il y a eu, bien sûr, j'ai pris en compte des articles qui c'était plutôt des articles qui critiquaient la tarification de l'activité et qui sont des articles qui ont été faits, justement, par le professeur Lombray. Mais c'était plus une critique sur la tarification de l'activité. Ce que moi, je voulais surtout trouver, c'était plus des éléments objectifs, c'est-à-dire une mesure des indicateurs suite donc, à la mise en place de la tarification pour avoir des éléments objectifs, fiables et valides qui nous permettent donc, de définir surtout s'il a eu un effet favorable ou défavorable suite à la mise en place de cette nouvelle stratégie de tarification.
D'autre part, je voulais vous interroger aussi sur les méthodes, puisqu'en fait, d'après ce que vous disiez, c'était les méthodes d'évaluation avant-après, et donc sur certains indicateurs, comme par exemple les pathologies iatrogènes, je pense que c'est assez difficile d'interpréter les résultats dans la mesure où il y a des programmes importants qui ont été mis en place, sur, en particulier en France, par exemple, sur les maladies nosocomiales, et certainement dans d'autres pays. Et donc, avant-après, ce n'est pas forcément très facile de comparer.
Tout à fait. Pour certains indicateurs, c'est vrai que les schémas avant-après n'est pas les plus adaptés. C'est plus pour mesurer, par exemple, le nombre des admissions, le nombre des réadmissions, la sortie prématurée des patients suite à une hospitalisation. Mais en effet, donc, les schémas avant-après, ce n'est pas les plus adaptés pour mesurer les taux des infections nosocomiales dans l'établissement de santé.
Alors, j'avais juste une dernière chose à faire sans vouloir monopoliser la parole, mais j'avais une question peut-être un petit peu plus vicieuse à poser. Je me demande en fait si notre système de santé ne s'est pas obnubilé sur l'accès aux soins et s'il n'a pas négligé un petit peu les problèmes de qualité des soins. Ça, c'est, disons, un petit peu mon sentiment personnel, ayant travaillé pendant longtemps dans le système. Je trouve qu'on a beaucoup ramé pour arriver à 100%, ce qui était l'objectif de 1945, hein, et que en fait on a perdu beaucoup de temps, ou on n'est pas arrivé très bien, ou on n'est pas arrivé à responsabiliser bien les gens, et du coup, si vous voulez, je crois qu'on s'est quand même un petit peu détourné, et les professionnels de la santé ont de toute façon les responsabilités en France par rapport à ça.
Oui.
Bon, ça c'était, disons, un petit peu un état d'âme, une question aussi, hein, quand même.
Oui, en effet, c'est vrai que la tarification à l'activité, qui est plutôt axée sur la productivité, néglige en certaines parties donc la qualité des soins. Et c'est vrai que pour la démarche d'évaluation des pratiques professionnelles et dès la qualité des soins, on a encore pas mal de travail à parcourir, parce que donc c'est une démarche qui est... Bien sûr, on travaille actuellement pour que les professionnels de santé puissent intégrer cette nouvelle culture d'évaluation dans leur pratique, mais de toute façon, on n'est qu'au début, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui.
Oui, enfin, je pense quand même que les EPP, les évaluations des pratiques professionnelles, vont quand même donner la possibilité d'une étude poussée au maximum, parce que jusqu'à maintenant, c'est étonnant que la morbidité ou la mortalité ou les infections nosocomiales ne soient pas tellement impactées ou n'ont pas changé tellement d'un système à l'autre. En fait, l'expérience de chacun dans ces EPP va apporter plus, parce que la difficulté, c'est de se dire les indicateurs doivent être tellement poussé pour que vraiment la qualité des soins soit ressentie entre l'établissement qui a les moyens et celui qui n'en a pas. Est-ce que c'est les moyens qui manquent vont avoir une différence? Vraiment, là, c'est des EPP, c'est chacun en son âme et conscience, il va faire son mea culpa et dire, voilà, je sors mes dossiers antérieurs, ce que j'ai fait, ce que j'ai omis de faire et tout ça. Et les EPP sont en quelque sorte une façon de dévoiler, parce que sinon, faire des indicateurs sur les infections nosocomiales ou sur on reste quand même dans des situations difficiles où on peut taire si vraiment il y a eu de mauvais résultats ou de bons résultats. L'établissement ne va pas quand même se dévoiler en disant on a des mauvais résultats, alors que la discrétion dans le cadre des EPP, c'est quand même une étude qui va être, comment dirais-je, le reflet de ce qui se passe dans le système de santé français par rapport aux moyens. Hein, j'imagine que c'est ça, parce que autrement, les indicateurs qui ont été utilisés jusqu'à maintenant ne sont pas capables de faire la différence entre ce qui se passe, ce qui se passait avant et après les tarifications à l'acte.
C'est vrai que l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est un outil qui est assez important pour donc évaluer l'amélioration des pratiques au sein d'un établissement de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluation des pratiques professionnelles, bien sûr, ça sert bien évidemment à mettre en évidence donc, des défaillances dans le système organisationnel hospitalier français, et pas uniquement liées aux pratiques professionnelles, mais aussi au contexte organisationnel de l'institution. C'est-à-dire que ça va nous permettre, à partir de l'évaluation des pratiques professionnelles, en plus d'utiliser des indicateurs courants comme les taux des infections nosocomiales, les taux de mortalité, etc., va nous permettre également d'identifier des défaillances lors de la prise en charge d'un patient dues à on ne peut pas dire des mauvaises pratiques, mais peut-être une mauvaise coordination entre professionnels ou donc une défaillance au niveau de l'organisation de services ou entre professionnels pour donc arriver à cet stade de la problématique au niveau de service. Et donc l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est justement une démarche qui va améliorer la qualité des soins et va permettre d'identifier les écarts existants entre la pratique qui devrait être mise en place et la pratique qui est réalisée, identifier donc ces écarts, analyser les causes, pourquoi est-ce que cette erreur est arrivée, et finalement mettre en place des axes d'amélioration pour éviter que cet événement puisse se reproduire dans les mêmes services ou ailleurs. Donc, bien sûr, ça va nous permettre d'analyser l'impact de l'amélioration de la qualité. Et par ailleurs, cette évaluation va nous permettre également de travailler sur le financement de l'établissement dans le sens où, à partir de la démarche d'évaluation, on va donc identifier où il existe des surcoûts, des dépenses inappropriées dues à la mauvaise qualité des soins. Donc, à partir de l'évaluation des pratiques professionnelles, on va identifier dans quel secteur on dépense de façon inappropriée, par exemple les admissions non justifiées, les prescriptions inappropriées, entre autres, qui va nous permettre justement d'identifier des défauts à niveau d'un système hospitalier, un système de santé, et en même temps, ça va nous permettre d'identifier où est-ce qu'il existe un surcoût qui est non adapté, où est-ce qu'on peut mettre en place des axes d'amélioration pour diminuer ces coûts liés à la non-qualité.
Un tout petit exemple pratique, j'aimerais que l'activité d'un praticien soit mise en avant et les déclarations d'événements indésirables en rapport avec la pénibilité de son activité et le manque d'effectifs, parce que ça c'est quelque chose qui est de très terre à terre. Si vous comparez l'activité d'un service ou un autre, en fonction du nombre de praticiens qui travaillent dans ce service, s'il y en a un qui fait 1000 actes par an et que dans un autre service, il n'en fait que 100 ou 200, c'est comparer quels sont les éléments, les événements indésirables, les erreurs commises dans le cadre, déclarées dans le cadre des EPP. Parce que là, ça donne vraiment un reflet de ce que les moyens apportent à la qualité des soins, parce qu'on est épuisé, on est obligé de faire son travail, et tout ça, on est tout seul, oui. Ou on est à deux, alors qu'il y a du travail pour trois ou quatre. C'est sûr que le manque de moyens va déboucher quand même sur une qualité des soins précaire. Roland disait tout à l'heure que 60% des praticiens, des cadres, se sentent bâclés leur travail, et c'est un petit peu. Et on aimerait avoir une étude qui vraiment est le reflet de ce que les moyens permettent. C'est sûr qu'on on est en train de dire qu'il y a une logique, il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de surveillance, il n'y a pas assez de moyens techniques, tout ça. Ben, ça va déboucher logiquement. Mais entre la logique et la constatation, c'est, voilà, vraiment, on a besoin d'une étude précise. Pour vraiment apporter la preuve mathématique que c'est, voilà, oui. C'est le cas vivant dans tel établissement, dans telle structure, on a telle complication, tout ça, parce que les moyens, l'effectif, etc.
Oui, en effet. Justement, au sein de la structure 3P, on a mis en place deux projets justement pour évaluer, mais pas vraiment l'impact de la diminution des effectifs, mais l'impact de contexte environnemental, donc organisationnel, dans, par exemple, les admissions inappropriées après passage aux urgences. Donc, on a mis en évidence justement que certains nombres des admissions inappropriées après les passages aux urgences sont dus, pas uniquement dus au contexte clinique du patient et à la perception du médecin, mais aussi liés à un contexte environnemental de l'établissement de santé, c'est-à-dire, par exemple, une mauvaise organisation dans les services, manque de communication, justement les sous-effectifs à niveau d'un service de santé. Tous ces éléments-là, ces dimensions-là, peuvent être impliqués dans la dégradation de la qualité des soins. Et on est arrivé, justement, à mettre en évidence, et l'effet du contexte environnemental influe de façon significative dans les admissions inappropriées au sein des établissements de santé de la région Poitou-Charentes. C'est vrai que ce sera bien de faire une étude qui soit dédiée exclusivement à ces sujets-là pour montrer donc, la proportion, par exemple, des erreurs liées à l'absentéisme, liées à l'augmentation de la charge de travail. C'est vrai que ce sera un sujet intéressant. Et pourquoi pas, peut-être on pourra le faire d'ici dans quelques temps et creuser un petit peu plus sur ces contextes environnementaux et identifier quels sont, de façon objective, les facteurs, les déterminants qui sont associés justement à ces problématiques dans les établissements de santé.
Simplement, ce que je voudrais ajouter par rapport à cet échange, c'est qu'il y a quand même des risques à ce que des indicateurs trop simplistes soient utilisés, notamment par les décideurs. Par exemple, en matière de chirurgie, et tu connais mieux le problème que moi, il y a des décideurs qui ont dit ça va être simple. Hein, en dessous d'un certain nombre d'actes réalisés dans un établissement, on supprime le service de chirurgie. Comme ça, il y aura moins d'incidents, puisqu'il n'y aura plus le service de chirurgie qui correspond, non pas sur la base des incidents réellement mesurés, mais c'est simplement parce qu'on dit si un chirurgien fait moins de temps d'actes, c'est qu'il n'est pas bon. Donc, on ferme le service. Alors, pourquoi pas, peut-être. Sauf que, du coup, on ne prend pas en compte d'autres éléments de la qualité du service rendu à la population. C'est l'accessibilité. Alors là, je suis Francis, mais l'accessibilité aux soins. Parce que si, en prenant ce genre de décision, on éloigne un service de chirurgie de 60 km du lieu de domicile, et tu connais bien la question, de 60 km du lieu de domicile de la population, peut-être qu'ils auront moins de risques, et encore, il faudrait voir dans quelle mesure, d'avoir tel ou tel type de complications, mais en revanche, ils auront le risque d'aller peut-être moins souvent consulter le chirurgien dont ils auraient besoin, parce que c'est quand même compliqué à faire pour beaucoup de gens. Ils auront moins le risque d'être traumatisés psychologiquement d'une hospitalisation dans une immense usine à soigner, où on sait quand même que, vu l'âge moyen des personnes qui arrivent dans les unités de certaines spécialités, c'est extrêmement dévastateur sur leur capacité à subir les soins de se retrouver pris en charge dans ces unités qui pourtant ont toutes les conditions objectives apparemment du bon soin. Donc c'est difficile aussi de dire ce que c'est qu'un bon soin, je crois.
C'est un risque. Alors l'inverse, c'est quand un praticien en fait de trop.
Voilà, ça rejoint.
Il est obligé de le faire parce qu'il y a la demande, il est tout seul. Et c'est là une preuve que quand même les moyens ne suivent pas pour qu'il y en ait deux.
Mais oui, ça, c'est vrai aussi.
Mais moi, je poserais bien une question à Gilles. Aujourd'hui, on vote, enfin, le Parlement vote un ONDAM, un objectif des dépenses d'assurance maladie. On régionalise des enveloppes. Et le système permet aux patients d'accéder autant de fois qu'il veut aux professionnels de santé. Il permet aux professionnels de santé de demander à un patient de revenir le voir. Et on met une tarification à l'activité dans les établissements de santé. Moi, je ne sais pas comment un économiste peut analyser une situation comme ça, mais on met des enveloppes et après, on dit aux gens, vous faites ce que vous voulez. J'exagère quand je dis un peu, vous faites... Mais le patient a toujours le droit d'aller consulter. Le praticien a le droit de rappeler, le radiologue a le droit de faire deux images en plus s'il en a envie, enfin s'il le juge utile. Et on dit aux hôpitaux, ben, tant que vous avez de l'activité, vous aurez plus d'argent. Et on donne une enveloppe régionale. Alors, moi, je ne sais pas comment... je ne suis pas très fort en économie, mais je ne comprends pas comment on peut voter d'un côté une enveloppe nationale, la régionaliser, et après dire, ben, vous faites ce que vous voulez, vous aurez du moment que vous travaillez, vous aurez de l'argent.
Alors, je vais être un peu brutal là-dessus. Il se trouve que quand je faisais mes études dans les années 80, il y avait la question de la tarification à l'acte qui était supposée être inflationniste. Et donc, il y avait beaucoup d'études en économie de la santé essayant de mesurer justement l'effet inflationniste de la tarification à l'acte, c'est-à-dire de la multiplication des actes que le généraliste demande à son patient de revenir toutes les semaines, tous les mois, et puis que le patient aille voir plusieurs généralistes, etc. Bon, depuis, on a un peu contrôlé les entrées dans le système à travers le médecin référent, hein, en partie. Mais au-delà de ça, je crois qu'à l'époque, la thématique était valable, mais qu'elle est beaucoup moins valable aujourd'hui pour la raison suivante, c'est que ce hiatus, cet écart entre les deux aspects, il est combiné avec un rationnement quantitatif, avec une pénurie des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une pénurie des professionnels de santé, où le nombre de médecins, de généralistes est limité, ce généraliste, il a déjà son temps complet, il est déjà surchargé, et donc il n'a pas intérêt à multiplier les actes. Et le patient, il ne peut pas multiplier les actes, puisque son rendez-vous, il ne l'aura que le lendemain ou le surlendemain, etc. L'exemple typique de ça, c'est ce qui se passe par exemple dans la Vienne avec les ophtalmos. Le rationnement quantitatif dans les ophtalmos, même si on est remboursé à 100%, qu'on peut y aller autant qu'on veut, etc., on ne peut pas. Quoi. Et donc, je crois que l'État a trouvé la solution, c'est le rationnement quantitatif de l'autre côté, du côté des professionnels de santé. Alors, c'est un peu brutal, et puis ça ne s'applique pas à tous les secteurs, mais je crois que la solution, elle est là. On résout la solution par le rationnement quantitatif des professionnels. C'est une opinion un petit peu personnelle, mais c'est parce que je me suis beaucoup interrogé pourquoi cette thématique, la tarification à l'acte est inflationniste, c'est la thématique dominante dans les années 80, et qu'aujourd'hui, à l'inverse, on vous dit la tarification à l'acte, ça permet de rationaliser le système. Et c'est exactement le discours inverse de ce qu'on disait dans les années 80. Je me suis dit, pourquoi, comme ça, il y a eu un renversement de discours? Je crois qu'en effet, l'interprétation, pour moi, elle est dans ce rationnement.
Ce qui n'avait pas été prévu dans le système de rationnement de l'offre de soins, notamment en termes de médecine libérale, c'est que du coup, les conditions d'exercice de la médecine libérale sont devenues tellement rébarbatives aux yeux des étudiants en médecine que les étudiants en médecine, quand ils sont formés, ne veulent plus s'installer en médecine libérale. Ce qui fait qu'il y a un effet... Non seulement on en a formé moins, mais en plus ceux qui sortent ne veulent pas exercer. Ce qui fait qu'actuellement, on a une pléthore de remplaçants et très peu de personnes qui s'installent. Et on va assister dans les années à venir à des changements d'habitude qui vont être dévastatrices aussi, hein, parce que l'image du médecin généraliste telle qu'on l'a connue, dans peu de temps, elle n'existera plus, parce qu'elle sera plus réalisable.
J'ai entendu la réponse de Gilles. Je sais que les études faites par les caisses de sécurité sociale montrent que quand même le nombre d'actes et fonction du nombre de professionnels, pas du nombre de malades. Et que, effectivement, dans des régions surdotées, le nombre d'actes... mais il existe des régions... Enfin, j'allais dire des régions surdotées, c'est peu exagéré, puisque plus on descend, plus on a des zones surdotées et des zones sous-dotées.
Tu veux dire descendre géographiquement?
Des zones géographiques, oui. Non, mais bien évidemment, des régions, il y en a des mieux dotées que d'autres. Enfin, le PACA est un peu mieux doté que l'Auvergne. Mais au-delà du fait régional, on sait que la zone, par exemple, littorale ou La Rochelle, pour le Poitou-Charentes, est très bien dotée en spécialiste. Et du côté de la Trimouille, oui, du sud Vienne, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc, effectivement, le gars de la Trimouille, il aurait plutôt tendance à filtrer sa clientèle pour pouvoir respirer. Bon, celui de La Rochelle et encore celui qui va s'installer là dans l'île de Ré, il a plutôt tendance à revoir la personne âgée tous les 15 jours que tous les mois, au moins quand il débute à s'installer et tout ça. Donc, il n'y a pas...
Il peut aussi jouer sur le dépassement d'honoraires plutôt que de jouer sur le nombre de patients.
Oui, alors le dépassement d'honoraires permet de diminuer le nombre d'actes.
C'est plus confortable pour le professionnel, mais hein, recevoir moins et les faire payer plus cher.
Aujourd'hui, le nombre de poids de vin qui me disent, oh mais moi maintenant je vais chez Oftalmo à La Rochelle parce qu'il y a de la place, donc comme je vais en week-end là sur le bord et tout, je téléphone, j'ai un rendez-vous chez l'Oftalmo à La Rochelle dans 15 jours. Alors bien entendu, ce n'est pas les points de vin les plus défavorisés qui peuvent faire ça. Mais quand on a l'habitude d'aller passer sur le bord de la mer ces week-ends,
on a l'habitude, mais il y a des gens qui vont faire le déplacement exprès et ça rentre pas dans les coûts de santé. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que là c'est un coût de transport qui ne va pas rentrer dans les frais de santé alors que ça pourrait s'intégrer. Alors je sais bien qu'on va, on n'y va pas juste pour l'ophtalmo, on va se baigner en partie à part, mais c'est intéressant, c'est que là on a une substitution par rapport à d'autres dépenses et qu'en effet c'est pas n'importe qui peut se le payer ou que c'est en lien avec une résidence secondaire à La Rochelle.
Je suis désolé, je crois qu'il faut qu'on conclue parce que habituellement il nous est demandé de terminer à partir de 10h30, donc Gérard, comme d'habitude, tu veux.
Non, mais moi non, mais c'est, mais en plus on n'a pas les dates du deuxième semestre.
Du deuxième semestre, eh bien, non. Tu as raison.
Bon, on va voir une fois que je me trompe pas. Non mais rien. Moi, en conclusion, moi, je crois que c'est d'abord de remercier nos intervenants d'être venus, d'avoir pris du temps pour préparer et pour nous le présenter. Et puis, en fait, on voit bien que bon, je suis pas sûr qu'on fasse des économies tout de suite. Non, mais je crois que la problématique de ce soir, on sera obligé d'y revenir de toute façon. Mais le simple fait de savoir que toutes les recherches dans la littérature que vous avez pu faire permettent pas aujourd'hui, de façon scientifique, de mettre en évidence la pertinence de la T2A ou... C'est-à-dire que dans la T2A, la seule chose qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, le côté relationnel humain va en diminution. La communication est moins facile, puisque tout. Mais on n'a quand même pas une étude sur un sujet qui est quand même, depuis maintenant plusieurs années, mis en avant et tout ça. Et puis, au niveau macroéconomique... tout ce qui est prouvé aujourd'hui, toutes les inégalités, moi qui milite depuis une trentaine d'années, quand j'ai commencé à militer, on disait, là, en santé, il y a plein d'inégalités. Mais en 30 ans, on a fait des gros progrès, parce que maintenant, entre les économistes, l'université, l'INSEE et tout, tout le monde est d'accord. Les inégalités se croisent et tout, voilà. Mais on n'a toujours pas de résultats et tout. C'est-à-dire qu'en 30 ans, la seule chose qu'on ait pu gagner, c'est d'avoir des chiffres disponibles et avec Internet, y compris de pouvoir les regarder le soir à la maison et quand on en a envie. Mais de là à ce que la modification, et bon, alors c'est peut-être pas une note très optimiste pour conclure, mais que la modification principale, c'est cet accès à l'information. Par contre, la transformation, on voit bien ici que les plus fragiles restent toujours dans des positions... Et que même si tout le monde gagne en espérance de vie et tout, les écarts ne se rétrécissent pas. Ils ont même plutôt tendance à s'allonger entre les catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées et tout. Donc, bon, c'est pas une note d'espoir obligatoirement. C'est pas une note d'espoir. On a l'information. Ben maintenant, il serait grand temps qu'on en fasse quelque chose pour diminuer. Donc, je vous remercie. Et puis, on se retrouvera au deuxième semestre. Vous regarderez
On verra les infos. Juste un point d'information. Je vais demander d'abord à nos deux internautes si vous seriez d'accord pour me laisser vos diaporamas.
Ils sont dessus.
Ben oui, mais ça, c'est l'ordinateur de Malais France. Est-ce que vous pourriez me l'envoyer sur l'adresse par laquelle je communique avec vous? Et à ce moment-là, ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour avoir les données, sur les affichettes, il y a l'adresse d'Aspès. C'est 20 rue des Fauvettes, 86180 Buxerolles. Pour ceux qui ont mon adresse email, vous me les demandez et je vous les transmettrai par email. Hein, parce que j'ai trouvé quand même que vous aviez beaucoup de données qui sont très intéressantes et qui peuvent être utilisées dans d'autres circonstances. Non, j'ai pas de clé sur moi, je suis désolé. Enfin, de toute façon, il faudra que ça repasse par moi. Hein, donc
le mien, si.